Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 106, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 septembre de 18 à 21h, en différé jeudi 11, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir tous.
Bonsoir Victoria.
Bonsoir Serge.
Bonsoir chers amis. Alors tous ceux qui espéraient que je ne reviendrai pas de Bagnols-sur-Mer pour m'installer à Bagnols-sur-Seine ont raté leur coup. Ah. Je suis là.
Mais ils étaient tristes, pas du tout. Ils n'espéraient pas que vous n'alliez pas revenir. Ils étaient d'une tristesse. Ils appelaient.
Ah non, pas tous. Pas
il
tous.
Est là. Il est inquiet.
Pas tous.
Que fait-il? Est-il malade? Souffre-t-il?
Voilà, ben non, ça va. Je suis. Bon, d'abord une petite.
Je vais vous faire un aveu, il est tout beau.
Oui. Vous devriez changer de lunettes quand même, hein. Je crois que le moment est venu. D'abord une petite annonce. Une petite annonce. C'est sérieux, hein. Je blague, mais la petite annonce est sérieuse. Il y a une entreprise de publicité, une toute petite entreprise familiale de publicité. Très, très bien. Très bien, cette entreprise, je sais, puisque mon fils y travaille, donc ça ne peut pas être mieux. Qui embauche. Extraordinaire. Elle cherche un candidat habile manuellement, plutôt jeune, plutôt, enfin, on ne sait pas, il n'y a pas le culte du jeunisme, mais il vaut mieux puisqu'il s'agit de lui enseigner un nouveau métier. La formation est assurée. Départ SMIC sur 35 heures. C'est le rêve. Moi, si j'avais l'âge, j'irais. Évolution possible. Alors, si vous êtes travailleur matinale, parce que c'est quand même une maison où on travaille assez tôt le matin. Oh bah, ça vous va bien de prendre un air accablé comme ça. Je vous dirai à qui je parle dans deux minutes. Et que vous avez envie de recevoir une formation dans une maison d'excellente qualité, bon esprit, vous téléphonez au 06 64 09 99 88. Dans le domaine de la publicité, mais pas de... pas de la publicité, c'est pas publiciste, quoi, c'est pas Vasse Conseil, c'est la technique, c'est des affiches et des choses comme ça. Voilà. 06 64 09 99 88. Je le répète, non, ça va, vous croyez qu'on a noté? 06 94 09 99 88. Voilà, je le redirai tout à l'heure parce que c'est urgent. Il y a une deuxième annonce, puisque je suis parti pour ça, je vous pique, parce qu'après j'oublie, hein, Victoria.
Mais faites, Serge, faites. Vous êtes chez vous.
En attendant la fête du livre de Radio Courtoisie, qui, on n'a pas de date pour l'instant, je pensais qu'il y aurait un bobino, mais il n'y a pas de bobino, donc en attendant, on fait comme l'année dernière, en Normandie, ça c'est spécialement pour les auditeurs normands et des régions circonvoisines. Bien, c'est des mots rares, ça, hein.
Quand même, géographiquement, la Normandie et les régions circonvoisines, c'est l'essentiel des émetteurs de radio courtoisie.
Mais à part le fait. Hein,
faut y penser à ça.
C'est vraiment, cher Tim, c'est Claude Timmerman que vous venez d'entendre, qui parlera plus longuement tout à l'heure. Donc, Anne Brassier organise, avec le soutien de votre serviteur et de quelques autres personnes de plus d'importance encore, l'opération Lire sous les pommiers.
Intéressant.
La deuxième édition de Lire sous les pommiers, ça se passera le dimanche 21 septembre, c'est-à-dire pas dimanche prochain, mais le dimanche suivant, c'est ça ? Aidez-moi un peu, ne me regardez pas avec cet air de Merlan.
Non, je suis dans l'anxiété la plus totale.
Pourquoi ?
Parce que la dernière fois qu'on avait fait une annonce de ce genre, il ne fallait pas la faire.
Ah bon ?
Alors je suis très inquiète, comme je ne l'ai pas vue.
Vous parlez des réunions qu'organise un type là avec, pour donner la parole à Goffman et qui annule la réunion quand on l'a annoncé à la radio parce qu'il a peur.
Il ne nous fait pas un procès pour ça, ce gars-là, quand même.
Il me fait un procès, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas bien compris, mais je vais certainement comprendre le jour du procès.
Non, mais c'est dangereux en cette période. Hein. Fin septembre, lire sous les pommiers, c'est dangereux. C'est l'époque où elle tombe.
Vous savez ce qu'on fait au
moi, je suis un Newton.
Newton, inventeur de la franc-maçonnerie, je vous signale. Hein.
Oh non, Serge, ça n'a pas recommencé.
Si, ça.
Il ne pense qu'à
alors,
ça.
On arrête, un break. Bonjour, docteur, comment allez-vous?
Monsieur le Président, bonjour.
C'est le docteur Plantet dont vous venez d'entendre le bel organe. Il est magnifique, il s'est peigné avec une gomme ce matin, le docteur.
Et modèle TAP.
Vous savez que quand on suce des bonbons avant une émission de radio, on bégaye après pendant toute l'émission.
Ah bon ?
Oui, je vous le dis comme ça.
Faut bien que je me nourrisse une fois.
Parce qu'après les gens vont croire que vous perdez votre dentier si vous sucez des bonbons. Bien, le dimanche 21 septembre à Saint-Étienne-la-Tillée, T-H-I-2-L-A-Y-E, vous rencontrerez des auteurs normands ou non, précise Anne Brassier. Vous allez voir que c'est quand même une précision qui n'est pas superflue, qui dédicaceront leurs livres, parmi lesquels Vladimir Volkov, évidemment, comme normand, on a déjà fait mieux, Serge de Beketch. Je me cite en deuxième parce que pour être juste derrière Volkov, comme normand aussi. Encore que quand j'étais gamin, j'ai fait partie du mouvement de la jeunesse normande de mon ami Jean Mabir, qui sera présent également. Ça vous embouche un coin, ça, Tim, hein ?
Pas du tout, pas du tout, parce que vous êtes essentiellement du Normand de l'Est, là, entre vous et Volkov, quand même.
Oui, c'est carrément. Jacqueline Dauxois, Florence de Baudus, Philippe Maxence, Emmanuel Ratier, l'Association des Amis de la Varande, puis plein d'autres gens qui vont se signaler, qui vont se dénoncer par la suite. Donc le rendez-vous est au Pressoir, jolie maison, à Saint-Étienne-la-Tillée, sur la départementale D58, près de Pont-l'Évêque et Beaumont-en-Auge. C'est tout près également de Deauville-Trouville.
Oui, c'est un ravissant pays.
C'est joli comme
Beaumont-en-Auge est absolument ravissant.
Parcours fléché à partir de la D58.
Ah oui, ça vaut mieux.
Entrée gratuite. Oui, entrée gratuite de 11h à 17h. Manquerait plus qu'on fasse payer. Pique-nique tiré du sac. Et pour ceux qui le désirent, apporter son pliant. Bah, ça vous fait rire, mais écoutez, il y a des gens qui aiment bien s'asseoir. Non, mais c'est vraiment sympathique. Hein. Donc, 21 septembre à 11h à Saint-Étienne-la-Tillée, sur la départementale 58, du côté de Pont-l'Évêque, formidable fromage, Beaumont-en-Auge, formidable cidre, et Trouville-Deauville, formidable restaurant de poisson.
Un peu plus loin, mais enfin, c'est...
Voilà. Non, je le garde parce que... Oui, vous le direz tout à l'heure. Voilà, bon, les petites annonces, ça va être peut-être tout, parce qu'après, il y en aura d'autres qu'on fera, mais voilà. Alors, le programme de ce soir, nous recevons, comme vous l'avez entendu, je vais d'abord donner celui qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent, le père Jean-Paul Argouache, surprise, est dans l'émission, première surprise. La deuxième surprise, ça sera pour quand il prendra la parole, vous verrez. C'est très inattendu. Jean-Paul Argouache, directeur du village d'enfants de Riaumont. Ça va les enfants à Riaumont ?
Oui, ça va très bien. On a une très bonne rentrée scolaire.
On a eu 100% de réussite aux examens de vacances.
Et effectivement, tous nos enfants ont réussi le BEPC. Je crois qu'ils étaient 8 ou 9.
C'est suspect. Ça. Oui. Moi, à mon avis, vous les battez.
Non, on a sûrement des arrangements avec l'éducation nationale.
Ah, ils sont pistonnés, oui.
Le docteur François Plantet. Bonsoir docteur, deuxième édition, avec qui on va parler de l'actualité médicale. Claude Timmerman, qui est collaborateur du Libre Journal. Et entre autres choses, parce que Claude, il a une carte de visite, c'est un véritable bottin. Alors, je limite là, ingénieur à Grenoble.
Non, j'ai jamais été ingénieur à Grenoble. J'ai été reçu à l'agro de Paris, c'est vrai, mais j'ai démissionné.
Avant.
Parce que alors, je suis consacré à des études plus.
Presque ingénieur à Grenoble.
Voilà, c'est ça, si vous voulez.
Et dans la deuxième partie, on recevra M. Frelat, qui est un inventeur que j'avais déjà reçu il y a des années, et qui a inventé une machine extraordinaire, qui est un vélo qui fait du surplace sur le dos. C'est-à-dire, on est sur le dos et on pédale en résistance à un rétropédale. Enfin, il vous expliquera ça. À muscler le dos. Ah non, mais c'est formidable. Et c'est tellement formidable qu'il avait fait un prototype qui a été essayé par des dizaines de kinés. Enfin, il nous racontera tout ça. Et finalement, il y a une société qui a décidé de lancer la fabrication de cet engin. C'est Madame Delanef, l'entreprise. C'est l'entreprise qui fait le Bolder Jacquet. Vous connaissez le Bolder Jacquet? Elle nous expliquera aussi ce que c'est que le Bolder Jacquet. Et à propos de vélo fixe, je voudrais quand même raconter une petite histoire que m'a rapporté un ami qui était rencontré en vacances et qui, lui, fait beaucoup, beaucoup de vélo. Et il me dit qu'un de ses amis a acheté à sa femme un vélo d'appartement. Et un matin, sa femme sort de la salle de bain toute contente en lui disant « Tu te rends compte, j'ai fait 6 kilomètres ?» Et il lui dit « T'as même pas pensé à rapporter le pain ?» Voilà. Et puis, nous recevons également Alain Couvrat, qui est psychologue. Et mais ça, je vous réserve la surprise, parce que c'est un psychologue d'un genre un peu spécial. Voilà. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez écouter de la musique ou lire. Bon livre en ce moment. Ou vous écrivez à Jean Ferré pour lui demander qu'il mette un terme à ma collaboration à cette radio, vraiment parce que c'est insupportable comme ça se produit. Il y a encore un monsieur qui a apporté une lettre tout à l'heure pour dire ça. Donc voilà. Et puis naturellement il y aura Cécilia Dem qui recevra Valentine Deganet, écrivain, et qui est la fille du propriétaire du domaine de Courance, qui présentera des livres. Courance, Marly, l'autre palais du soleil et le jardin des cinq plaisirs. Voilà. Quelques nouvelles de l'actualité que vous êtes parfaitement à même, chers amis, de commenter selon votre inspiration. Je voudrais d'abord apporter un démenti formel à l'idée que on ne fait plus d'enfants dans notre pays. Là, j'ai reçu l'agenda de Canal du mois de septembre 2003, alors je ne sais pas qui ça concerne, c'est une... Si, c'est Pantin, voilà. L'état civil du mois de juin et juillet 2003 à Pantin. Alors, je ne vais pas vous donner tout vous lire, mais je vais vous lire les 10 premiers noms, vous verrez quand même que...
Pantin en Seine-Saint-Denis.
Pantin en France, Seine-Saint-Denis française, oui. Alors, nous saluons la naissance de Lias Titou, Seri Goli, Souad Sambedja, Fatoumata Traoré, Alison Gonsalves, Christine Mehar, Alassi Sassi, Adam Abichou, Doukia Bekti, Marianne Anjalila Jalali, c'est très difficile à lire, hein, Mohamed Diakabi. Voilà. En revanche, nous déplorons le décès de Madame Françoise Marchand, de Joséphine Templier, de Denise Loiseau, de Jeanne Thomas, d'André Larvor et Pousse Boyer, de Philippe Pascal. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est encore beaucoup en France. Hélas, on meurt aussi pas mal. Mais quand on regarde, il y a quand même quatre colonnes de naissance pour une seule colonne de décès. Donc, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que l'avenir de la France est assuré. Et je suis bien content de pouvoir vous l'annoncer officiellement. Voilà. T'as pas l'air de vous réjouir, toutes ces naissances. Pourquoi vous faites des têtes comme ça?
Bon, je ne fais pas une tête comme ça, mais compte tenu de ce que je vais raconter après, les gens vont penser qu'on l'a fait exprès. Alors...
Non, on ne l'a pas fait exprès. Alors, un auditeur m'envoie quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vrai. Et je crois que ce n'est pas vrai. Quand il dit que les sujets mathématiques proposés au bac, pour le bac aux candidats de Ville-Tanneuse. Veuillez répondre aux questions suivantes. Marzouk possède un AK-47 avec un chargeur de 80 balles. Il tire 13 balles à chaque fois qu'il presse la détente. Combien de fois pourra-t-il tirer avant d'avoir à recharger? Deuxième question. Carlos a 10 grammes de colombienne pure. Il l'a coupé avec du bicarbonate à raison de 4 parties de cocaïne pour 6 parties de bicarbonate. Il a revendu 6 grammes du mélange à Miguel pour la somme de 25 000 et 15 grammes à Ramon pour 3 500 grammes. Qui de Miguel ou Ramon s'est fait rouler? Combien de grammes de coco mélangé au bicarbonate reste-t-il à Carlos? Quel est le taux de dilution de la colombienne de Carlos? Ah, puis alors là, Cédric est souteneur, il a trois filles qui travaillent pour lui. Si le prix d'une passe est de 2 100 francs et que Cédric prélève 1 200 francs sur chaque passe, combien chaque fille devra-t-elle faire de passe pour que Cédric puisse se payer ses trois doses de crack quotidiennes dont le prix est de 3 400 francs chacun? C'est compliqué, hein, même moi j'aurais du mal à répondre.
Mais tirons à nouveau notre chapeau aux élèves du Père Aguarche qui ont eu le BEPC à 100% avec des questions pareilles.
Non, c'est une question du bac.
Sans tromper, hein, ils n'étaient pas du tout...
Non. Vous avez arrêté, ça vous avez supprimé. Voilà, non, mais c'est bien la preuve que Riomont, c'est quand même une maison sérieuse, parce que, et même, on peut dire plus que. Je vous donne la parole tout de suite, Claude. C'est plus que sérieux, c'est même dur.
Oui, c'est.
Parce que la drogue est interdite.
Oui. Non, mais c'est vrai que c'est dur.
Quelle rigueur morale.
C'est dur parce qu'on voudrait sauver les enfants qui viennent chez nous, qui viennent avec un peu de shit dans la poche. À partir du moment où vous en proposez aux autres, c'est très difficile, parce qu'il y a un moment où faire une séparation. L'apostolat, et il y a aussi un choix, le Christ est signe de contradiction, et il y a un moment où on est obligé de séparer.
Mais
et
pourtant, le ministre de l'Intérieur vient de déclarer que le temps n'était plus à l'interdiction, mais au contrôle. Alors, vous ne voulez pas vous mettre un peu à la chimie et mesurer un peu les proportions de bicarbonate et de colombienne dans la cocaïne des enfants?
On n'est pas du tout de cette philosophie-là. Ça, il n'y a pas de problème. Bon. On a 40 ans, on a même 50 ans d'expérience, et on sait ce qu'il faut faire. Ouais, et bon. Ceux qui m'écoutent, ils savent ce qu'il faut faire.
Vous n'êtes pas laxiste, quoi, pour tout dire.
Absolument.
Et alors, vous savez qu'on cherche de l'argent pour la sécurité sociale, qui est toujours en déficit, etc. Alors, un auditeur vient de m'envoyer deux documents. Les impôts augmentent, sachez qu'ils sont bien utilisés. Voici un exemple de carte distribuée chez les médecins, dans les lycées et ailleurs. Ça ne doit pas coûter 2 sous. Voilà. Alors, ce sont des cartes, vous savez, des cartes qui changent. Comment, je sais pas, que ça doit avoir un nom technique. C'est des cartes qui sont imprimées de telle manière que si vous les regardez d'un côté, vous avez une image. Que vous regardez de l'autre côté, vous avez une autre image. Alors, ce sont des cartes. Écartez les enfants pendant que je lis, s'il vous plaît. Cartes réalisées à l'initiative du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, secrétariat d'État à la Santé et aux Handicapés. Et du CFES. Alors, la carte montre...
Comité français d'éducation pour la santé.
Voilà. Un monsieur et une dame dans une position... voilà.
Non équivoque.
Non équivoque. Le monsieur présente un objet
non
sur
identifié.
Lequel je ne m'étendrai pas pendant qu'il... voilà. Et la légende, c'est qui vivra jouira pour que dure le plaisir. Voilà. Et puis, une autre carte, c'est deux jeunes messieurs qui sont en conversation intime. Et le texte, c'est « Qui vivra, baisera ». Alors, vous voyez, effectivement, quand vous regardez sous un angle, ils parlent. Et quand vous regardez sous un autre angle, ils ne peuvent plus parler.
C'est la Sécu qui fait ça ?
Pardon ?
C'est la Sécu ?
C'est le ministère de la Santé, mon cher docteur.
Oui, mais je peux vous expliquer pourquoi ces cartes ont été faites. Je ne comprends pas très bien.
Ben, c'est contre le sida. Bon.
Ah bon, mais fallait le dire, je m'excuserai, j'avais pas compris.
Vous êtes pour le sida, Thiermel.
Du coup, je vais être pour le sida, je m'en connais qui vont dire ça. Ouais, absolument. Voilà. Non, j'avais pas compris, vous voyez, sur le coup.
Voilà, où part votre fric, chers auditeurs contribuables. Voilà, c'est des cartes qui valent une fortune, parce que...
Oui, ça coûte très cher à faire
ça vient chez Mattei, donc. Ça fera bien plaisir à Papa Mattei au ciel, qui était un parangon de catholicisme.
Ouais.
Top niveau. Bravo, Fissou.
Voilà, bravo, Fissou.
Il tient bien les promesses.
Hein. Alors, puisque vous avez pris la parole, je vais vous la laisser. J'aimerais bien que vous m'explicassiez.
Il n'y a plus rien à dire.
Non, il y a plein de choses au contraire à dire. Alors, cette affaire de canicule, il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais bien que vous nous en parliez. C'est l'aspect traditionnel et l'aspect... purement médical. L'aspect traditionnel, on sait que vous êtes un grand lecteur des pères de l'Église, des grands textes de l'Église, et vous avez fait des petites recherches dedans, vous avez trouvé des choses intéressantes quand même.
C'est effectivement assez intéressant parce que donc la canicule, ça vient du chien, hein, donc la constellation de Sirius, qui est l'étoile la plus brillante, qui a une racine... indo-européenne qui veut dire brillance et qui ressemble à la racine Surya, ça sera ça Sphéros en Grèce. En grec, ça ressemble à Séphirot, hein, donc déjà on est... Et cette époque de canicule, c'était une époque qui a du 22 juillet au 23 août dans l'Antiquité, et c'était considéré comme quelque chose d'épouvantablement maléfique. Et notamment une période Une période. Pharmacie. Une période où les médicaments n'agissaient plus. Hein. Et Hippocrate dit subcanem et antecanem. Hein, les médicaments n'agissent plus. Donc c'était considéré comme quelque chose d'extrêmement dangereux et qui s'accompagnait de sacrifices, notamment de petits chiens roux. Une raison mystérieuse qui était destinée à évacuer enfin les assauts maléfiques qui se plaçaient à ce moment-là. Il faut bien dire que c'est des périodes, hein, c'est la période de la Révolution française, c'est la période de la guerre de 14, hein, c'est effectivement des périodes absolument empoisonnées. Et là-dessus se greffe ce que notre ami Nicolas a découvert dans Chrétien de Troyes, hein, c'est-à-dire le fait que c'est pendant la canicule qu'on procède à la mort du roi. Oui. Je ne connais pas le détail du texte, mais c'est tout à fait fascinant.
C'est dans la mort du chien.
C'est ça. Il y a toujours une histoire de chien, quoi. Oui. Ouais, quelque chose qui...
Donc déjà, depuis la plus haute antiquité, on sait que c'est une période néfaste. Et c'est une période, je crois, où il était connu. Enfin, je crois que c'est...
C'est Firmicus, un sénateur de Sicile, là, qui était un grand astronome, qui disait que l'astrologue... qui disait que les gens nés sous cette période étaient des fous furieux, extrêmement dangereux, qui grinçaient des dents comme des chiens, qui étaient incontrôlables, enfin, voilà. Hein, il y a donc
et puis on dit aussi que les remèdes ne marchent pas.
Ils ne marchent pas. Hein. Subcanem et antecanem, dit Hippocrate.
Alors ça, c'est quand même très curieux, parce que ça fait en somme très 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 longtemps qu'on sait que les périodes caniculaires sont des périodes néfastes.
Absolument.
Bon, dangereuses, oui. Et médicalement dangereuses.
Absolument.
Oui. Là-dessus, on nous explique que le gouvernement, dont le travail est de gouverner, c'est-à-dire de prévoir, a été pris par surprise par cette canicule qui n'était jamais annoncée que par une demi-douzaine de...
Millions de messages.
De messages, notamment... ce que j'écris dans le livre journal, les gens de la recherche spatiale, enfin,
oui.
De la recherche spatiale, du programme de recherche spatiale français, qui avait dit, on s'attend à une très très forte, à de très fortes chaleurs, et donc ça, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les programmes de lancement ou de préparation des lancements ou d'équipement des bases de lancement, etc. Donc apparemment, tout le monde le savait, sauf les gens qui étaient directement concernés par les problèmes médicaux.
Je ne vois pas en quoi, d'ailleurs, cette chose-là pouvait perturber à ce point les hôpitaux. Hein, c'est quand même pas... moi, je me souviens de mes souvenirs d'externe et d'interne. Hein, ça me paraît pas exagéré de traiter des déshydratations, même en masse. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que les urgences sont déréglées depuis bien longtemps. Ah, c'est un secret de polichinelle que les urgences, c'est épouvantable. Moi, j'ai une de mes patientes encore qui a attendu 7 heures à l'hôpital de Montmorency. Au bout de 7 heures, on lui a dit d'aller voir un chirurgien en ville. Et j'ai un patient qui est mort parce que on a raté le diagnostic d'hématome extradural dans la vie. Quand on l'opère, les gens sont sauvés dans la seconde. Même par quelqu'un qui connaît pas. Hein. Vous prenez un vilebrequin, vous faites un trou dans la tête là où ça fait mal, le sang sort, il est sauvé. 48 heures. L'interne s'est sauvé, on l'a plus jamais retrouvé. Hein, c'était un interne d'un pays bordant la Méditerranée, hein, et qui et le juge d'instruction n'a pas trouvé lieu à poursuite. Elle a clos le dossier. La famille, tellement écœurée, a pas poursuivi, ce qui est bien dommage. Hein, les urgences sont explosées.
Il y a une tiers-mondisation, là, comme on dit maintenant.
C'est effrayant.
La médecine. Hein. J'entendais tout à l'heure sur une radio périphérique qu'on avait arrêté une bande de dentistes clandestins qui opéraient à Paris, dans la région parisienne, dans des arrières-salles de café.
Médecine foraine, on appelait ça.
Voilà, ils remplaçaient des dents par des dents en céramique industrielle utilisée pour la mécanique automobile, et qui collait avec de la colle forte pour revêtement de sol.
Non, mais c'est...
Non, mais je vous assure. Et alors, le gars qui voulait pas dire ce que c'était, bien entendu, parce que ça, c'est absolument interdit, hein, a quand même fini par dire que c'était des gens qui, sans doute, avaient des diplômes dans leur pays d'origine.
Mais c'est ça, ouais. Diplôme de plombier, comme dans le truc de Louis Salvador.
France Info a fait un effort, indiqué que c'était des Syriens et qu'ils n'avaient pas de papier. Et qu'ils étaient également clandestins comme immigrants.
Ouais. Ouais. Enfin, cette histoire me paraît invraisemblable parce que la désorganisation des urgences, ils sont en train de réorganiser. Ils n'avaient d'abord pas à la désorganiser. Et ça, c'est la réforme de Bray. Hein, on retrouve toujours cette infestation de Bray partout. Hein, en Algérie, dans les hôpitaux où il a fait exploser la médecine sous prétexte de la mort de Bonnardisé. Enfin, hein, on est entouré de généticiens de réputation mondiale, mais on ne s'est pas donné un verre d'eau à un mec qui arrive dans les hôpitaux. C'est quand même fort.
Il y a quoi, eu quand même l'histoire de Marseille qui est absolument magnifique. Je trouve.
C'est irréel. J'ai entendu la radio un collègue dans les hôpitaux qui dit... on savait plus quoi faire, alors on appelait Marseille parce que là-bas, il fait chaud, ils savent.
Il y a quelques années,
on a entendu, voilà. Alors quelqu'un a répondu, Timon, ah ben nous on connaît bien, hein. Alors notre méthode, on prend des gants de toilette imbibés d'eau et on leur fout sur la tronche et après on met des serviettes partout, quoi, hein. Voilà. Et les pieds dans des glaçons, comme du pastis, voilà. Et les types disent, voilà, on a réussi.
Enfin, on a réussi à sauver grâce au recours à la médecine
irréel,
moderne,
hein,
la plus.
Alors on vient nous expliquer que notre camarade Mattei est un généticien de réputation mondiale. Il y a toujours des gens qui ont des listes comme ça de réputation mondiale. On ne sait pas qui c'est qui les établit, mais enfin, c'est toujours comme ça. Hein.
C'est ce que disait Coluche, ouais. Les gens qui s'autorisent à dire,
voilà.
On ne sait pas qui les autorise.
Alors, on nous explique que demain, on va tout guérir. Hein. La génétique, ça guérit tout. On va transplanter les gènes, etc. Résultat, il y a un mec qui arrive, il fait 10 degrés de plus et tout est déréglé. Hein. Alors que de notre temps, quand moi j'étais interne, les urgences, c'était d'une perfection absolue. Hein. Moi, j'ai jamais vu un mort lié à la faute d'un interne. Il y avait tout le temps du monde 24 heures sur 24, avec des gens qui ont le niveau normal sup quand même, hein, donc l'encadrement était de... Même dans les hôpitaux des régions sanitaires, moi j'ai passé, avant d'être nommé aux hôpitaux de Marseille et Paris, j'ai passé le concours d'Aix-en-Provence, déjà là c'était un niveau exceptionnellement élevé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout explose, hein, que tout se dilue en mille morceaux, hein, et pour que cette médecine... où on supprime des produits soi-disant inefficaces, soit incapable de savoir ce que c'est qu'une déshydratation. C'est quand même incroyable, hein, que quelqu'un arrive, parce qu'en plus la déshydratation, c'est pas uniquement une histoire d'eau, si j'ose dire. Hein. Quand on l'obèse, vous pouvez pas uniquement faire boire, parce que ça dilue les minérales ou corticoïdes, en fait tout ce qu'il y a dans le sang, et c'est dangereux. En plus, la plupart des gens qui arrivaient étaient soignés par les bons médicaments remboursés que la Sécu aime tant, c'est-à-dire les molécules qui touchent le cholestérol, les 12 traitements de l'hypertension artérielle que chaque médecin sera obligé de coller aux personnes âgées, plus des anti-inflammatoires, enfin des trucs qui dérèglent tout dans le cerveau. Il est évident que dans ces cas-là, les circuits, parce qu'on a dans le cerveau des circuits de déperdition de la chaleur qui ramènent tout le temps le cerveau à sa température qui va être vachement bien réglée. Hein. Bon ben, ces médicaments, ils perturbent ces voies-là. Donc, le traitement doit prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si les circuits sont surchargés par des médicaments qui les bloquent, il faut faire quelque chose pour les améliorer. Apparemment, c'était au-delà de la pensée des médecins actuels.
Hein. Alors, en plus, on nous a dit pendant toute la canicule, il faut faire boire les personnes âgées, il faut faire boire les enfants, etc. Puis l'autre jour, j'entendais un médecin qui disait, non, lundi matin, un médecin sur une radio, je ne sais pas laquelle, périphérique, qui expliquait que non, il ne fallait surtout pas faire boire, parce que plus on boit, plus l'intention monte, et donc ça devient très dangereux, surtout pour des vieillards hypertendus qui sont alors qui prennent des produits qui font baisser la tension. Donc ça contredit absolument le traitement en cours, et que d'autre part, il faut pas boire plus de 3/4 de litre par jour, autrement on est en danger. Bon, alors, on a l'impression d'un discours totalement incohérent, où n'importe qui dit n'importe quoi, oui, en succession, et où les journalistes qui posent des questions ne posent jamais la question de ce qui a été dit la veille. Et j'entendais ça d'ailleurs à propos des émissions politiques, où un gars disait, c'est extraordinaire, on voit Chirac arriver, interviewé par Poivre d'Arvor, qui dit la France est en 5e position sur le plan économique en Europe ou dans le monde. Et puis le lendemain, un socialiste vient et dit, pas du tout, la France est en 33e... Enfin non, pas du tout. Il dit, la France est en 33e position. Et le journaliste, le même, n'a même pas l'idée de lui dire, attendez, hier, le président de la République a dit en 5e position. Vous, vous dites en 3e. Sur quoi fondez-vous vos chiffres? Quelles sont vos sources? Quelles sont vos références? Non.
Exactement.
Les gens, le lundi, croient que c'est le 5e. Le mardi, ils pensent que c'est 33. Le lundi, croit qu'il faut boire 8 litres d'eau par jour. Le mardi, pense qu'il faut boire 1 demi-litre.
Il est clair que pour les boissons, je dirais qu'avant la physiologie, qui est incertaine, c'est la tradition qui dit ce qu'il faut faire. Moi, quand j'étais petit en Algérie, il faisait 60 à l'ombre. On n'est jamais mort. On buvait normalement parce que l'organisme procède possèdent ces systèmes de protection qui sont l'hormone antidiurétique qui protège le capital d'eau, qui s'arrange pour que ça soit pas trop dilué. Si vous buvez 10 litres d'eau par jour, vous diluez de 10 fois la masse des électrolytes. Donc à partir de ce moment-là, les cellules, elles fonctionnent pas normalement. Et c'est vrai que je crois que le type qui a parlé à la radio faisait allusion à un article paru dans la prestigieuse revue qui est le British Medical Journal, ou quelqu'un de sérieux qui connaît, et Dieu sait si les gens qui connaissent, c'est handful, hein. En anglais, ils disent you know them on a first name basis, hein. Ils connaissaient par le prénom.
Par le pronom,
oui. Type est venu dire, il a dit, on dit n'importe quoi. Et on sait pas trop, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut pas boire sans arrêt parce que c'est dangereux, hein. C'est des potomanies, ça dilue tout, ça change toutes ces hormones. L'hormone antidiurétique, c'est une hormone mystique, hein. Elle est centrale dans le cerveau. Elle a un rôle très pointu et il faut pas la toucher, hein. Il faut s'adapter à son besoin, hein. Et si, je crois qu'il parlait aussi des entraîneurs, ou alors là, dans les salles de sport, de boxe et tout, les types disent n'importe quoi, qu'il faut boire, recracher, vous savez, chez Gracie Antona. Ouais, hein. Ouais. Alors, tu comprends, tu vas boire un coup d'eau, puis tu recraches, parce que ça fait le double muscle, enfin, truc invraisemblable, quoi. Alors que, il faut boire quand on a soif, quand et pas final.
Oui, c'est probable, voilà. C'est, il y a une certaine logique là-dedans. Il faut boire quand on a soif, et se mettre au frais quand on a trop chaud.
En gros, bon. Et manger quand on a faim. Ouais. En tout cas,
j'aurais fait un bon médecin, ouais. Finalement.
Ça laisse quand même planer un léger doute sur la médecine moderne, scientifique, prodigieuse, qui a tout guéri. Je lisais un livre d'un hématologue dont je dirais pas le nom, hein, une pseudo-gloire scientifique qui a rien laissé, que j'ai trouvé dans une poubelle. Hein. C'est, vous savez, c'est les livres qu'on vend au kilo à Brancion. C'était la médecine d'avant, métaphysique, ne connaissait rien, c'était des minables, maintenant nous savons tout, etc. Ben voilà le résultat. On sait tout, mais la température monte de 5 degrés, et tout le monde descend aux abris, les morts se comptent par milliers. Bon, quand il va faire froid, ça va être la même chose. Ils vont téléphoner en Finlande pour demander ce qu'on fait, et ils vont dire, nous, ici, on met gros, page dessus, et très belle chapka, hein, c'est ça. Hein.
Formidable découverte de la médecine.
C'est des
russe.
Têtes à claque, quoi, les mecs. Hein.
Mais dans Minute qui vient de paraître, Conk nous assure, par un beau dessin, que nous sommes prêts et que les fosses sont déjà creusées pour les victimes du froid à côté des tombes des victimes de la chaleur. Pendant que j'ai le crachoir, si j'ose dire, en parlant de boire, Serge de Becquet suggérait tout à l'heure qu'on fasse des rapprochements. Et je voudrais vous demander, docteur, si vous pensez qu'il est, disons, correct de faire le rapprochement entre cette faillite que vous venez d'évoquer et le développement récent, je crois, mais vous allez peut-être me corriger, de ce qu'on appelle maladie nosocomiale et maladie iatrogène, c'est-à-dire maladie causée par le médecin ou causée par l'hôpital, et qui ont fait des victimes célèbres.
Alors la seule maladie iatrogène, c'est la femme du médecin, parce qu'elle engendre des médecins, c'est ça ce que ça veut dire. Comme disait un collègue, c'est la mère souvent, tout le temps, le père parfois, hein, c'est bon. Mais effectivement, hein, cette espèce de pourriture qui gagne les hôpitaux, c'est qu'il y a un laxisme. Il y a quelque chose de mystérieux, quoi. Dès qu'on a touché le serment d'Hippocrate et les bases sacrées de la maladie, tout a explosé. Parce que les clés de la civilisation, elles ne sont pas dans la technique, elles sont dans le sacré et le métaphysique. On touche ces trucs et tout explose. Hein, c'est une apologétique à l'envers. Dès qu'on a commencé à toucher, d'ailleurs, je crois qu'il n'existe même plus le serment d'Hippocrate. Ça doit être un serment humanitaire ou une prise de... Hein, quelque chose comme dans l'armée, quoi. Hein. Dès qu'on touche à ces choses-là, à la limite, les pierres elles-mêmes crieront, hein, comme disait le Christ. Hein, les médecins ne peuvent plus soigner parce qu'ils n'ont plus l'onction sacrée. Ils ont perdu ce que donnait, dans une certaine mesure, l'initiation que représentait le serment d'Hippocrate. C'est une profession sacrée, la médecine. Hein.
Qui excluait notamment toute manœuvre abortive,
c'est clair.
Si j'ai bonne mémoire.
Bah, c'est clair.
On ne donnerait pas de portion abortive, hein, ni de PCR.
PCR, voilà, exactement.
Hein, et voilà, ça, quand on a supprimé cet aspect, enfin ce serment, on a supprimé l'essentiel même de la médecine. C'est-à-dire qu'un médecin qui ne prend pas l'engagement de sauver la vie à tout prix, c'est vrai.
Moi, j'ai passé ma thèse, ce nouveau serment a été déjà édicté, mais j'ai imprimé l'ancien sur ma thèse et j'ai prononcé l'ancien aussi et personne ne m'a rien dit, quoi, hein, parce que c'était infect, quoi. Mais le résultat, c'est ça, la vraie clé, elle est là-dedans, cette civilisation pourrie parce qu'il n'y a plus de sacré, parce qu'on s'est détaché de Dieu et qu'on meurt, quoi, hein, et qu'à la limite, plus rien n'est rattrapable. Hein, moi, je dis que plus rien, y a que Dieu qui peut nous sortir de cette affaire-là. La médecine atteint des sommets d'abomination puis de bêtises en plus. C'est des imbéciles. Hein. C'est la bêtise dont Schiller dit que les dieux eux-mêmes sont désarmés devant ce truc-là. Hein. Regardez, par exemple, l'histoire des Grèces, là, qui m'intéresse depuis si longtemps. Alors, pendant des mois et des années, on vous explique que c'est de la sardine, c'est de l'escroquerie. Moi, j'ai quand même arrêté qu'on traitait de ça à la fin. Puis tout d'un coup, comme il y a une énorme pression, et qu'un jour, il y a un mec de Harvard qui finit par publier quelque chose de plus ou moins adéquat, alors tout d'un coup, tout se remplit brusquement. Alors, on ne parle plus que de ça. Il y a deux, trois petits écrivaillons qui saisissent. Hein,
oui, alors ça aussi, c'est ahurissant. Parce qu'à propos, justement, de ces questions des graisses et des bioflavonoïdes, pendant des années, on en parlait pas. Personne n'écoutait. Il y a vous que pratiquement qui en parlait.
Personne, sauf, je veux dire, ceux qui m'ont appris. Oui, c'est-à-dire depuis le professeur Renaud, Bang et Dyerberg, enfin les grands qui ont découvert chez les Esquimaux.
Mais dans des cercles extraordinairement fermés.
First name basis, voilà, tout le monde se connaissait là-dedans.
Et puis d'un seul coup, on en parle. Et là, on voit des gens qui n'ont rien à voir avec ce sujet, même de loin. Comme je sais pas si c'est un Servan Schreiber
ou un
Duhamel qui a écrit c'est un des deux qui a écrit un bouquin sur les huiles
mais c'est ce que m'avait dit mon vénéré patron quand j'étais en industrie, qui était un génie des affaires. Il m'avait dit vous savez pourquoi c'est pas exploité, parce que au bout d'un moment, ces trucs non brevetés, ça finit par être connu du petit public. Immédiatement, il me dit, vous avez un mec dans un garage de banlieue qui fabrique 5000 boîtes par jour et qui les vend. C'est exactement ça. Ouais. Hein, on a ce qu'on a vu déjà pour les mélatonines, pour le calcium, pour toutes ces conneries. Et là, ils prostituent le truc, parce que ces graisses-là, c'est d'un emploi extrêmement complexe. Hein. On peut pas mélanger, comme c'est dans ce livre, la rééducation cardiaque avec la biologie moléculaire des graisses, qui est quand même quelque chose où les gens, c'est les docteurs et sciences qui... Même les gens de Harvard qui ont publié cette année, ils sont en retard de loin par rapport au même professeur de Harvard que j'ai connu, Donald Rudin, dont la théorie était infiniment supérieure à ce qu'elle est maintenant.
Hein. Et en plus, vous parliez tout à l'heure du caractère sacré de l'acte médical et du serment sacré que prêtent les médecins. Et il y a toujours cette dimension sacrée. Alors là, en ce qui concerne cette question des huiles, c'est directement...
Les huiles, c'est directement dans la symbolique biblique, c'est la marque... Dans les concordances bibliques de l'Ancien Testament, les termes des huiles sont, je crois qu'il y a 600 fois le nom shemen, hein, qui veut dire l'huile ou le beurre, hein, dans l'Ancien Testament. C'est essentiel, c'est quelque chose qui sauve, c'est l'huile de toutes les onctions, y compris l'onction des l'extrême onction. Et puis surtout, c'est le plus bel exemple, c'est le livre de Tobie, parce que Raphaël, c'est l'ange médecin. Hein? Refoua, c'est Rophé, c'est le médecin. Refoua, c'est la médecine qui a donné thérapie, hein, en partant du grec. Là, hein. Et donc Raphaël fabrique des oméga 3. Quand le poisson saute sur Toby, il lui dit garde le foie de poisson. Surtout, ne t'en prive pas. Tu vas guérir les yeux de ton père et tu vas faire fuir les démons en faisant brûler le foie. Oui. Ce qui est extraordinaire parce que je crois qu'on en avait déjà parlé, mais comme il y a assez longtemps, on peut peut-être rappeler. À l'époque, j'étais donc dans une grande société de pharmaceutique et j'ai demandé aux ingénieurs chimistes qu'est-ce qui se passe quand on fait brûler du foie. Hein, qu'est-ce que ça peut faire chez les humains ? Ils m'ont dit ça donne de l'acroléine, qui est le plus puissant de tous les antiparasitaires. Hein. Donc ça fait fuir ces parasites. Là, il faut remarquer que c'est la même chose pour les antidépresseurs. Les antidépresseurs, ils ont une structure d'antiparasitaire. Donc, ils font fuir les idées parasites comme ils font fuir les vers. Hein. Et ils font fuir des idées, par exemple, de culpabilité démoniaque. Il y a une harmonie extraordinaire là-dedans. Hein. Et l'ange Raphaël, il indique bien que ces graisses ont une valeur cosmique. Hein. La graisse, c'est ce qui stabilise l'eau. Hein. Autrement dit, le cerveau, c'est un bloc de graisse. Hein. Vous savez, dans la marine, là, quand il y avait des tempêtes, les types, ils filaient de l'huile.
Hein. Oui.
Moi, j'ai mon camarade, mon associé, là, celui qui a écrit le papier sur le ginkgo biloba à Harvard. Il a essayé en mer des Antilles, il m'a dit que c'était extraordinaire. Quoi. Il filait un peu d'huile et il y avait une zone de calme tout autour du bateau. Donc la graisse, ça stabilise.
Précaire.
Hein. Précaire.
Connu à l'époque où les navires naviguaient de conserve ou en cas de guerre en fil. Le dernier avait le droit de le faire, surtout pas ceux d'avant. Parce que dès que le film commence à se détruire avec les vagues, alors là, la tempête redouble.
C'est extraordinaire hein, comme enseignement, parce que ça veut dire que ce qui est huileux, calme, le murmure des grandes eaux, qui est considéré dans la Bible comme la possibilité universelle extrêmement dangereuse. Hein, c'est ce que dit à la fois le roi David, c'est ce que dit Jonas quand il dit qu'il a vu les verrous du fond de la mer, et qu'il est d'ailleurs protégé par le poisson, qui est une masse d'oméga 3. Hein. Et donc, et Job dit la même chose. Donc, ces hurlements, et puis c'est la symbolique du miracle du Christ qui marche sur les eaux, c'est pas pour le plaisir de faire un miracle, c'est pour montrer qu'il a stabilisé l'instable, hein, qu'il nous a sorti de cet abîme. Dans le roi David hurle constamment, les grandes eaux étaient en train de me dévorer le cœur. Donc, or, ces graisses-là, non seulement elles assurent ça, c'est les membranes cellulaires, mais en tant que médicament, elles sont la base de la substance qui guérit tout, hein, que si on l'avait pas, qui est la cortisone, qui est un cycle de cholestérol, qui est d'ailleurs pas, c'est un truc trouvé dans le sang. Mais la cortisone, quand on sait pas, on fait de la cortisone, hein. C'est le successeur de l'aspirine.
Ça a des résultats formidables. Ça, d'ailleurs, voilà. Au moins dans l'immédiat, ça fait un peu penser à ce qui se passe quand on file de l'huile. C'est précaire, mais qu'est-ce que c'est efficace. Mais
c'est colossal, quoi. Hein, c'est anti-inflammatoire. Donc il y a derrière quelque chose d'extraordinaire qui est connu depuis longtemps. Mais enfin, moi, j'ai quand même entendu dire un abruti dire à l'époque où ils ont supprimé le remboursement du Maxepa de chez Pierre Fabre. On va quand même pas rembourser les sardines à l'huile. C'est comme si on disait, on va pas rembourser l'eau, hein, qu'on perfuse chez les opérés, le sérum physiologique, c'est de l'eau salée, hein. Ça sauve la vie, hein. C'est ce qui sauve la vie en chirurgie, hein. Et alors, on le rembourserait pas parce que c'est un peu d'eau dans, un peu de sel dans de l'eau. On a une pensée d'imbécile. Les gens qui sont là, parce qu'ils ont, non seulement ils ont pas de base biologique, parce que, ce qu'on apprend à la faculté de médecine, c'est même pas de la biologie de salon, quoi. Dans le journal de Mickey, c'est d'un niveau supérieur. Hein. Mais en plus, ils ont aucune connaissance générale, hein, tant soit peu philo. Donc ça fait quelque chose d'étrange, qui est ni biologique. Finalement, la médecine se ramène à distribuer les médicaments que les labos nous imposent, hein, et à supprimer ceux dont ils en veulent plus, dont ils ne veulent plus, ce qui est le cas en ce moment.
Alors justement, là, je vais vous poser la question qui s'impose sur le sujet actuel, c'est le remplacement de certains, enfin le remboursement limité aux génériques pour certains médicaments. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des génériques?
Déjà, je pense que l'économie est grotesque, hein, par rapport au ça, il y en a qui connaissent bien mieux que moi, comme
Postales,
par exemple, porno, c'est des économies ineptes, mais derrière, d'abord, premièrement, les génériques, ils sont jamais équivalents les uns aux autres, hein. Moi, je vais vous donner une preuve. Il y a à peu près 10 ans, il y a eu un générique du Valium aux États-Unis. Donc, Roche a fait un procès, dont deux des experts étaient deux amis très chers, là, c'était Turan Itil, qui était à l'époque professeur à New York Medical College, et Max Fink, qui était professeur à Columbia, et qui ont développé des systèmes d'analyse des signaux du cerveau qui changent avec les médicaments. Et ils ont montré au juge fédéral que l'action électrique des deux substances était complètement différente. Hein. Bon, ça c'est très clair, il y a eu beaucoup d'autres exemples, mais surtout en ce moment, il y a une lutte épouvantable dans l'industrie pharmaceutique avec l'implication des Indiens, hein, aux Indes, qui ont des montagnes d'usines de génériques dont on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Hein, ça va du Viagra à n'importe quoi, plus les Japonais, hein, avec une magouille qui est à la limite mafieuse. C'est quelque chose de très malsain. Quand vous connaissez un médicament, quand vous avez une expérience longue d'un médicament, il faut garder le même. Hein. Vous n'êtes jamais absolument pas sûr que la préparation galénique des autres sera la même que la vôtre. C'est pas vrai. Quoi.
Et non. Alors,
c'est ça le problème. C'est justement ça, c'est que quand on parle d'un générique, on parle de la molécule active. Oui. Soit, mais pour que cette molécule soit active en pratique, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, docteur, ça dépend de la façon dont elle est amenée dans l'organisme, donc des composants qui fabriquent le médicament autour de cette molécule active, qui le rendent plus ou moins digeste, plus ou moins fixatif sur les cellules, etc.
C'est pour ça que moi, l'auditeur de base, mes médias radiophoniques, me serinent, c'est la même molécule, tous les jours depuis des années. Et j'avoue que je l'ai avalé, cette molécule. Je découvre ce soir.
Mais il n'y a pas que la molécule.
C'est jamais exactement la même chose. C'est des façons de faire, de préparation et de machin qui sont jamais équivalents. Hein, et tous les procès qui ont eu lieu contre les génériques ont souvent été gagnés parce qu'il était possible de prouver que c'était pas la même chose. Et de toute façon, quand vous avez l'habitude d'une molécule, que vous avez une expérience renouvelée, moi, j'irai jamais prendre un générique de nafranil, hein. Je prendrai celui du laboratoire parce que j'en ai une expérience très ancienne quand je colle à ce médicament. Et je vais pas pouvoir juger des réactions entre les whisky pure malt et les autres. Il y a aussi des différences, hein. C'est toujours du whisky, mais vous reconnaissez,
c'est la même chose avec, si on parle de la vodka, par exemple, et l'aquavit. C'est exactement la même chose. C'est de l'eau mélangée à de l'alcool. Et ben, n'empêche, ça n'a pas le même goût. Donc, pourquoi? On sait pas. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a qu'il y a des questions, des réflexions, des protestations, des réclamations,
oui,
des,
d'abord,
des invocations.
Plusieurs appels, je vous le dis
des
tout de suite. Pouvez-vous redonner le numéro de téléphone à l'origine de la, de, pour la pub là.
Ah, la petite annonce.
Oui, redites-la parce que...
Une quatrième fois.
06.
Ils n'ont pas eu le temps
c'est
de le noter.
C'est un portable, donc 06 64 09 99 88. Alors, comme on est entendu dans le monde entier, maintenant je vais le dire autrement, je vais dire à l'attention de nos amis belges et suisses. 06 64 08 99 88.
Ils vont, je suis pas sûr qu'ils vont être très contents, nos auditeurs belges.
Ben, si, on dit bien.
Ah non, en Belgique, on dit
99,
pas 8 ans,
c'est uniquement Suisse. Alors, pour les Belges, 99, 88, et pour les Suisses, 99, 88.
88.
88.
88.
Non, 8 ans.
8 ans.
06, 64, 09, 99, 88. Alors, si vous êtes normalien, comme Claude, ou docteur en médecine, ex-interne, comme ex ou ancien, je sais jamais.
Ancien.
Ancien interne. Comme le professeur, comme le docteur Plantet, ou prêtre à temps plein comme le père Argouache, c'est pas la peine de téléphoner, parce que là, c'est le SMIC, hein. 35 heures aussi, il faut dire. C'est bien le SMIC, 35 heures.
Ça laisse le temps de travailler à côté.
C'est pour faire quoi, ça?
C'est pour travailler dans une petite entreprise de publicité familiale.
Après, on fait des belles cartes postales comme
celle
ça.
Qui a,
d'accord.
Qui a le courage de faire travailler mon fils.
Oh,
ça c'est fort. Ça, alors il cherche un collaborateur pour renforcer l'équipe.
Et être formé.
Et alors, oui.
Donc, c'est pour ça que c'est le SMIC au départ.
C'est ça, SMIC au départ.
Il va être payé pour être formé, ce
c'est
jeune
plutôt
homme.
Pour un jeune homme. Voilà, il va être payé pour apprendre son métier.
C'est pas mal.
Cette jeune fille d'ailleurs, parce que c'est ouvert. Aux jeunes hommes et aux jeunes filles, pas aux autres, je suis obligé de le dire.
J'allais vous demander.
C'est pas le genre de la maison.
Le troisième siècle.
Voilà, non, pas du tout.
Sexe, non.
Voilà. Bien.
Donc nous disions.
Alors continue.
Un auditeur, j'ai échappé à la canicule mortelle, non pas en buvant de l'eau, mais du vin rouge.
Ah.
C'est le sang du Seigneur qui m'a sauvé la vie, c'est ça la foi. Question directe au docteur Plantet. Quand j'étais jeune, les médecins libéraux se lavaient les mains entre deux patients. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ?
Exact. Parce qu'ils sont devenus, ils ont défroqué, ils ont enlevé leur blouse. C'est comme les gens qui font du patin roulé dans les rues. C'est plus dangereux. On a décidé que c'était plus
c'est
dangereux.
Chose, voilà.
On arrête de se laver les mains parce qu'on dit que c'est du nominalisme. Il n'y a plus de microbes. Pourquoi ils n'allument plus leurs phares, les cyclistes, dans les rues qui donnent cette espèce d'impression effrayante dans la ville ? Il n'y a plus de danger, on peut rouler à l'envers, c'est moi je roule et personne ne va me toucher. C'est exactement ça. Hein.
C'est une virtualisation du quotidien.
Voilà.
Ils pensent que quand ils voient une voiture qui leur fonce dessus, c'est comme à la télé. C'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé, je ne sais pas, vous avez certainement vu, je crois que c'est une bande dessinée ou un film, on voyait en Afrique des nègres qui regardent un drap sur lequel on projetait l'entrée du train en gare de la Ciotat, et les nègres qui partent épouvantés, en criant, parce qu'ils croient que le train va... Bon, alors, donc, ça a marché comme ça pendant quelques années, puis un jour, ils ont compris que le train sortait pas de l'écran, et maintenant, c'est inversé, c'est-à-dire qu'en France, quand on voit un train arriver, j'ai vu ça l'autre jour à Bagnoul, justement, il y avait un père de famille qui laissait sa petite fille de 3-4 ans jouer sur la voie ferrée des grands express internationaux.
Mais c'est...
Parce qu'il devait penser que le train, c'était un truc virtuel.
Écoutez, ça touche tout le monde, y compris les gens proches de nous. Hein. Moi, le dimanche, dans une église très fréquentée, je vois des jeunes couples à qui on mettrait des baffes, mais avec une joie, sans mélange, quoi. Hein. Des crétins qui arrivent à bicyclette, non protégés, avec des paquets d'enfants prêts à s'écrouler par terre, mais on devrait, nos prêtres devraient leur donner des bons pour avoir le droit de procréer, hein, des bons de saillie, parce qu'il y en a qui tuent leurs enfants de cette manière-là, hein. Ils les laissent courir partout, c'est très impressionnant, hein. Mais les trucs en médecine, c'est la même chose, hein.
Au 19e siècle, je crois que les grands patrons de la médecine faisaient le concours à celui qui aurait la redingote la plus verte de moisissure, parce que ça indiquait qu'il travaillait plus.
Mais c'était dégueulasse, hein. Donc après Lister et Pasteur, les gens se sont mis au moins des blouses blanches qui protègent, non seulement ça protège parce que c'est sale ce qu'on fait plus ou moins, Mais le ça blanc visualise, vous protège, ça vous, en plus, mais en même temps, ça vous protège, ça enlève votre sexe en quelque sorte. Moi, j'ai des femmes qui m'ont dit, je peux pas aller chez un gynécologue qui met pas de blouse ouais. pour faire un toucher, ouais, c'est impossible. Hein.
Tandis que c'est comme la soutane, ah, hein, c'est un bouclier, une arme. En même
c'est
temps.
Clair, ça va très loin hein, la, ouais. l'histoire du costume.
Et les blouses à l'école.
Et les blouses à l'école.
Oui, maîtresse.
Et le blues à la Nouvelle-Orléans.
Oh, docteur, ce n'est pas digne de vous.
Parlons. Si. Apollon lui-même détend parfois son arc, comme dit Virgile.
Alors.
Il porte pas de blues, lui.
Si.
Bien sûr que si.
Une auditrice contente du retour de Serge Beckett, je ne suis pas d'accord avec le docteur Plantet,
ah,
parce que
gentil.
Le meilleur médicament qui soit quand on a une malformation rénale et de la cystite, c'est la boisson. Beaucoup d'eau et je n'ai pas besoin de médicaments.
Ça, c'est... Je ne peux rien dire, là,
voilà,
c'est trop vague.
Voilà, pas porter de diagnostic.
Ouais, je sais pas, là, c'est...
Un auditeur vous demande, quand les Français pourront-ils acheter de l'huile de lin alimentaire qui contient...
Ah. Ça, c'est un...
je sais pas quoi d'oméga 3.
Ça c'est un grand mystère.
C'est d'oméga-3. Moins cher que le poisson.
Et surtout, surtout, c'est que le poisson contient pas cet acide qui est celui qui est basique, c'est celui du saindoux, qui n'est pas dans l'huile du poisson.
Et qui n'est plus dans le saindoux.
Et qui n'est
grâce
plus dans
à l'amélioration
saindoux.
Des porcs, maintenant, il n'y a plus de saindoux.
Il y en a plus depuis 1927. D'après une étude anglaise que j'ai lue, il n'y a plus rien. Pour la vie sur les étagères. Hein.
Alors, l'huile de lin, elle est interdite en France.
Elle est interdite depuis Fallières.
Hein? Pourquoi ?
Pour des raisons soi-disant qu'elle s'oxyde et qu'elle donne des produits dangereux. Mais alors à ce compte-là, il ne faut plus vendre des beefsteaks. Parce qu'en deux jours, ils deviennent hyper toxiques. Ouais. C'est irréel ce truc.
Mais l'huile de noix
et
aussi.
L'huile de colza aussi. Et l'huile de noix aussi. Hein? Et les yaourts et les machins transgéniques qui vendent tous ces produits pourris. Les produits comme le fruit d'or. Hein? J'arrive jamais à retenir le nom.
Margarine.
La margarine. C'est des produits dangereux. Serge Renaud a montré qu'ils augmentaient la mortalité cardiaque, qu'ils augmentaient la mortalité cancéreuse, n'empêche qu'ils sont en vente partout. Et c'est l'huile de lin qui est partout en Europe disponible qui est interdite. Personnellement, vous connaissez ma tournure d'esprit qui parfois bondit un peu loin. Je pense qu'il y a une intention malsaine là-dedans. Parce que tous les axes, enfin toutes les sources d'oméga 3, eh ben, elles sont supprimées. On n'en a plus. Hein. Où que vous alliez, vous les trouvez plus. De même, pendant très très longtemps, la vitamine qui utilise ces graisses, qui est la vitamine qui prévient la pélague, PP, hein, Pellagra Preventing, elle a 10 fois par an, elle disparaît du marché. On ne sait pas pourquoi, il n'y en a plus. Alors on cherche, alors on est obligé de faire des préparations magistrales, c'est très bizarre. Personne ne peut vous dire pourquoi Astra, qui est un énorme trust suédois, s'arrête un jour d'en faire, 6 jours à Payana, puis ça disparaît. Et l'industrie se comportent comme des chiens. Hein, et personne... par exemple, ils suppriment des médicaments. Le dernier en date, c'est la desméthylimipramine, le pertofran, qui est un médicament particulier, qui est un des dérivés de l'imipramine, et qui a une action neurochimique dans les dépressions très particulière, hein, qui repose sur plein de machins. Hein. Moi, j'ai des patients qui ne répondent qu'à ça. Hein. Donc, c'est comme si vous avez un antibiotique, il agit... J'ai une patiente, ça fait 20 ans qu'elle a la frite avec 200 mg de machin. Du jour au lendemain, il est supprimé. Personne ne dit rien. Ça veut dire, premièrement, que visiblement, dans l'université, tout le monde se fout de la pharmacologie. Hein. C'est-à-dire que pour eux, il suffit de leur mettre un papier en disant « ça, c'est un antidépresseur, il est déprimé, vous le donnez ». Donc c'est niveau zéro de la médecine. Vous avez de la fièvre, je vous donne un antifébrile. Mais oui. Docteur, la fièvre, c'est un antifébrile.
Hein, c'est l'embaréné, c'est ce que j'avais dit.
C'est la blouse africaine, hein, ça c'est clair. Hein. La deuxième chose, ça veut dire que l'industrie pharmaceutique, ou bien ils suppriment ce produit parce qu'il n'a jamais servi à rien, hein, donc ce qui est déjà pas bien, ou ils le suppriment en sachant qu'il est parlé, ça ne peuvent pas l'ignorer. Il y a des noms prestigieux qui ont étudié cette molécule en montrant qu'elle a une action spéciale, et à ce moment-là, ils sont extrêmement coupables. Hein. À la limite, quelqu'un qui se suicide parce qu'il n'y a plus de pertofran, il demande, la famille demande 20 millions de dollars à c'est Novartis maintenant qui fait ça. Enfin, c'est le Sibagegi mélangé à machin, quoi. Hein. C'est scandaleux. Il y a eu la même chose pour la trazodone, le Pragmarel, qui a une action très spécifique, vachement utile, disparu du marché parce que UPSA les Iretis n'ont pas pu garder UPSA à cause du fisc. Donc, c'est une boîte américaine qui l'a racheté. Ils avaient eux-mêmes un produit de ce genre, supprimé du marché. Et c'est tous les jours comme ça. Le Lucidril, la centrophénoxine, un des rarissimes médicaments capables de nettoyer les lysosomes des neurones, c'est-à-dire les intestins des neurones qui se chargent de graisse sale dans les maladies dites Alzheimer. Ce qu'un collègue américain a appelé Spring Cleaner, hein, nettoyeur de printemps.
De printemps, hein.
Supprimé du marché du jour au lendemain. Et un an après, il réapparaît dans Luxembourg, dans les catalogues, parce qu'en France, il ne peut pas le vendre, de Smart City, où ils vous vendent ce produit qui devait coûter 40 francs la boîte, 500 balles. Hein, voilà. C'est tout le temps comme ça. Et ces industriels de l'industrie font n'importe quoi. Ils peuvent vous mettre sur le marché des médicaments pratiquement inefficaces, comme toute la série des nouveaux antidépresseurs, ou dangereux, hein, comme, faut bien le dire, l'immense majorité de la chimiothérapie, hein, entre nous. Hein, moi, je ne citerai pas, je ne peux pas citer, c'est trop lourd, si vous voulez. Mais j'invite les gens qui connaissent à voir un peu les dernières études dans les plus pointues anglo-saxonnes sur le résultat des chimiothérapies. Hein. C'est très instructif. Ouais.
D'autres questions, Victor?
Que pensez-vous du traitement par le jeûne, 8 jours à 2 mois, court ou long, donc 8 jours à 2 mois, que pratique le docteur Shelton aux États-Unis?
Ouais, je dirais qu'en France, c'est l'abbé Zeralda, hein, de bénie mémoire, hein, qui a jeûné de 2 fois 40 jours et qui était dans une forme éblouissante, hein, ceux qui l'ont connu. Et vous savez que notre ami le capitaine lui-même fait des jeûnes très longs et qui se nourrit d'un biscuit tous les 3 jours, et vous savez ce qu'il représente, oui, force physique, oui, hein, comme puissance intellectuelle.
C'est extraordinaire. Ça, c'est voilà. Un personnage. Oui, cela dit, c'est quand même un processus à manier.
C'est pas
avec
la portée de tout le monde, donc il faut. Mais par contre, il est à la portée de tout le monde de faire un jeûne de 2 jours. Hein.
Oui.
Ça a aucun danger. Les manifestations qu'ils peuvent avoir au début sont liées non pas au manque d'énergie, on peut tenir un mois sans rien, mais à des remaniements pharmacologiques, à des oscillations de la glycémie ou des machins comme ça. Une fois que c'est passé, après on est impeccable. Hein. Et effectivement, hein, comme disait Dominique Tasso, 0 sur 0 égale 0. Quand vous avez arrêté tout le système se met au repos. Il y a des séquences dans la santé où on ne peut pas se passer du jeûne. D'ailleurs, les manifestations, quand les gens ont plus faim dans les maladies, c'est une tentative d'auto-guérison. C'est comme l'insomnie, ouais, dans les dépressions.
Oui,
il ne faut pas faire dormir les déprimés, il faut les empêcher de dormir.
Ouais.
C'est là où ils tombent malades. Hein, donc c'est très très instructif de regarder comment l'organisme va changer son métabolisme pour se protéger.
C'est les histoires de la fièvre dont vous parliez tout à l'heure. Le fait de donner des produits contre la fièvre sans chercher à savoir pourquoi il y a la fièvre, c'est de la folie, parce que la fièvre, c'est un médicament auto-généré.
Même chose pour l'hypertension. L'hypertension, il y a 140 médicaments de l'hypertension. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? On traite un nom.
Ouais.
C'est ce que disait aussi un professeur du New York Medical College qui s'élève contre ça avec d'autres collègues. C'est invraisemblable. Hein. Et en ce moment, il y a une tentative, comme pour le cholestérol, de faire en sorte que les médecins commencent à traiter les tensions à partir de 12-8.
Ouais.
Ce qui est de la folie furieuse. Hein, furieuse. D'autant que 80% de ces médicaments augmentent la mortalité. Ou augmente la tension éventuellement. Alors on ajoute. On en met 1, 2, 3, 5. Et quand il y a une canicule, boum, il n'y a plus personne.
Ma sœur pharmacienne me conseillait de prendre des médicaments. Me déconseille, pardon, de prendre des médicaments génériques.
C'est pas pareil.
Car les excipients peuvent être différents et on peut ne pas les supporter.
Bien sûr, c'est la préparation galénique. Quoi, hein.
Une auditrice nous dit, j'étais à l'hôpital pendant la canicule, ils m'ont viré parce qu'il fallait fermer un étage. 5 jours après, j'ai dû y retourner car, ayant eu des complications, je venais d'être opérée du cancer. Les infirmières m'ont dit que les personnes décédées étaient fragiles et n'avaient pu continuer à vivre.
La preuve.
Et de toute façon, on n'aurait pas continué à vivre plus de 6 mois.
Mais ça, c'est l'argument que j'ai entendu. Malheureusement, j'ai pas pu noter le nom de l'officiel qui disait ça. Il a dit, en substance, d'une façon peut-être un peu moins brutale que je ne le fais, il a dit, écoutez, bon, c'est vrai, c'est dramatique, c'est un drame humain, mais enfin, de toute façon, ces gens-là seraient morts avant Noël. Donc, au fond, on économise 5 mois de retraite, 5 mois de sécurité sociale.
Des cadeaux à Noël et des arbres de Noël dans les maisons de retraite.
Est-ce que vous savez ce que ça représente, ces phénomènes? De l'économie. C'est phénoménal, ça représente presque 1 milliard d'euros.
Ah bon,
c'est gigantesque.
Non, il faut acheter de la mort au rat.
Il faut en tuer d'autres tout de suite permettre à M. Raffarin de rétablir le budget de la sécurité sociale.
Il faut absolument réorganiser une. Mais à mon avis, Attali avait trouvé la solution.
Oui.
Effectivement, c'est la faute aux gens qui vivent trop vieux. Alors, non, mais c'est vrai, écoutez,
il faut
dégager quand même.
Tout l'hiver.
Attali disait, je suis pour ma part, en tant que socialiste, objectivement contre l'allongement de la vie, parce que c'est un leurre, un faux problème. Je crois que poser ce type de problème permet d'éviter des questions plus essentielles, telles que celle de la libération du temps réellement vécu dans la vie présente. À quoi sert de vivre jusqu'à 100 ans si nous gagnons 20 ans de dictature ?
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Rien. Non, mais je sais pas, mais moi, je vous lis, moi. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit. La logique socialiste, c'est la liberté. Et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide direct ou indirect, alias l'assassinat, bien entendu.
C'est le camarade qui vient de suicider.
Ouais, là, c'est plus j'ai suicidé ma grand-mère parce qu'elle commençait à me peser un peu. Il y avait quand même l'héritage. Bon. Mais voilà. Alors, en conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue de ce type de société. Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront pratiques courantes. Je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future.
C'est terrifiant parce que Attali,
conseiller de Mitterrand,
s'oppose à toute la pensée hébraïque la plus sacrée, qui fait de la vie des vieillards, du respect des vieillards, Amenouna le vieillard, c'est quand on lit le Zohar et le Talmud, les maîtres vénérés, c'est des vénérés vieillards que les gens inondent de leurs larmes, enfin c'est immonde ce qu'il dit.
Hein. Alors ça c'était en 81, mais c'est pas un accident de la pensée.
Oui, vous savez que les parents d'Attali, ils avaient une parfumerie à Alger. Ouais. Et ils gagnaient quand même beaucoup d'argent avec les vieilles dames riches. Si on avait niqué les vieilles dames riches d'Alger à 60 ans, ils n'auraient pas gagné beaucoup d'argent chez Bibébab, quoi. Hein.
Bibébab,
c'était très joli. Hein,
et alors, 20 ans plus tard, donc là, dans l'Express, il dit qu'il faut réinventer l'organisation du travail pour maintenir les personnes dites âgées en situation d'utilité le plus longtemps possible.
Ben comme en gré, alors.
Vous avez bien entendu. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, il y a 20 ans, il disait il faut éliminer la vie lorsqu'elle est économiquement trop coûteuse. Et aujourd'hui, il dit il faut réinventer l'organisation du travail pour maintenir les personnes dites âgées en situation d'utilité le plus longtemps possible. Ça veut dire que ce sont des gens qui disent les vieux, on veut bien les garder, mais à condition qu'ils rapportent du fric.
Sinon, quick.
Voilà. Sinon, allez, à dégager.
Ben, c'est le contraire de l'idée que l'humanité a eu d'elle-même de tous les temps, quoi. Ouais.
Hein, c'est ça.
Spécialement dans la pensée hébraïque ancienne ou la vieille, où l'ancien était le maître vénéré, le chef de famille, le chef de clan. Enfin, et qu'est-ce qu'il a dans la tête,
D'autres questions? Ou remarques, ou réflexions?
Quelqu'un nous dit, j'ai fait une allergie monstrueuse au space-fond générique.
On a rencontré récemment une dame qui a failli mourir brutalement avec un générique. C'est effectivement, pour la raison qu'on a évoquée plusieurs fois.
Il y a une question personnelle pour le docteur Plantet. Est-ce que le docteur Plantet a de la famille à Dax? Car là-bas, il y a une rue Francis Plantet.
Je peux pas dire. J'ai oublié avec notre exil en Algérie. On a perdu un peu les contacts, mais c'est vraisemblable.
Pourquoi les médicaments à base d'amphétamines sont interdits? Ne peut-on les avoir de façon contrôlée à l'étranger?
À l'étranger, on en trouve partout. Sur prescription médicale, parce que c'est des produits remarquablement utiles quand on sait s'en servir. Chez nous, non. Bah, sauf si on va à Barbès, là, on trouve tout ce qu'on veut. Mais quand vous voulez se faire de la médecine, vous ne trouvez pas. Hein.
Comme dit mon épicier, mon arabe du coin, il me dit, j'étais en vacances... je suis rentré de vacances, je suis allé faire un tour à Barbès, mais c'est incroyable, de plus en plus de Français, on n'est plus chez nous.
Non, c'est
vrai. Puis alors là, on vous escroque quelques petites consultations. Que pensez-vous de l'huile de foie de morue qui est encore en vente dans certaines pharmacies?
Bah, c'est très bien, seulement il faut en boire beaucoup. C'est très bien, hein. Puis le goût est un peu...
Ah, maintenant, ils en font parfumé à la fraise.
Je l'aime bien, la nature, ça ne me dérangeait pas. Avant qu'il ne m'accepte pas, je prenais l'huile de salvaire, j'en buvais un petit bol au petit déjeuner.
Chacun prend son plaisir où il le trouve.
Alors justement, pouvons-nous consommer du Maxepa régulièrement sans avis médical?
C'est clair. C'est comme si on demandait si on pouvait manger du saumon tous les jours. Bien sûr que oui. Hein. Puis les avis médicaux, je veux dire, les gens qui connaissent les oméga 3 en France, il y en a 3 au CNRS et puis les autres, c'est avis médical.
Simplement, le docteur Plantin n'a pas entrepris une campagne de promotion personnelle dans le milieu médical. Comment se faire des amis? Je vais vous offrir le bouquin de Del Carnegie. Comment se faire des amis?
Les diabétiques peuvent-ils faire un jeûne?
En étant prudent, oui, en faisant attention. Hein. C'est question de cas particulier. On ne peut pas répondre à des questions comme ça.
Le docteur Plantet se moque pourtant des huiles essentielles.
Je m'en moque pas. Je dis simplement que j'en ai pas l'expérience et que je suis pas compétent pour donner. Je pense que c'est certainement des choses extrêmement puissantes, mais je vais pas parler de ce que je connais pas.
Hein. Pour ça, on a le docteur Willem qui parle des huiles essentielles. Il vient souvent le faire ici.
Et la graine de lin peut-elle aider à la place de l'huile en tisane, la décoction ou infusion?
Mais pas trop. Il n'y a plus d'huile là-dedans.
Hein? Alors, toujours, le docteur Plantet consulte-t-il?
Non.
Si oui, peut-il donner ses coordonnées?
Moi, je consulte pas.
Une consultation mensuelle
à Radio Courtoisie. Je suis tombée par hasard sur un ouvrage de Bossuet, Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. C'est un traité de physiologie qui vous amusera.
C'est exact. Sûrement, il a écrit aussi un traité d'anatomie remarquable dans ses œuvres complètes.
Les autres, je ne les ai pas lus, alors
bon. Eh bien, écoutez, on répondra une autre fois. Je me tourne maintenant, tout en gardant le docteur Plantet autour de cette table, s'il veut bien rester avec nous. Ah, vous allez taper sur des gens. Bon, alors, il va nous quitter pour aller faire son petit entraînement de sport de combat. Donc, vous êtes tranquille. Claude, vous pouvez dire toutes les bêtises que vous voulez. Le docteur Plantet ne sera pas là pour vous battre.
Ah, mais je suis très triste, au contraire. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés à l'occasion de diverses conférences et je sais qu'on se rencontrera encore. C'est toujours, en ce qui me concerne, avec plaisir. Et j'ose espérer que c'est partagé.
Alors, vous revenez à nous parler de la Manche.
Ben, je viens vous parler de la Manche. Je viens vous parler d'un ensemble de choses que je suis depuis 6 mois. Que je vais essayer de résumer en 1/4 d'heure, 20 minutes, parce que disons que j'ai eu l'occasion de tirer, à travers un certain nombre de relations et de personnes qui m'ont aidé à faire des petites enquêtes et de documents que j'ai pu avoir, un certain nombre de fils. Et puis il y a 15 jours, brusquement, tout le puzzle s'est bloqué d'un coup. Et à ce moment-là, je vous ai fait la petite note que je vous ai faite en disant, maintenant, je peux commencer à venir en parler. Parce que tous les éléments sont en place.
Alors, ce que vous découvrez, c'est qu'il y a une expérience sociopolitique qui est en cours
dans le département
de la Manche, qui est transformée en laboratoire de la nouvelle ruralité, ce qui veut dire très exactement en laboratoire de l'immigration en milieu rural. C'est ça que ça veut dire.
C'est l'immigration en milieu rural d'un côté, ce que je vais vous expliquer juste après à travers 2 ou 3 éléments très simples, et d'un autre côté, c'est le laboratoire à forcement de la nouvelle agriculture intensive et la plus artificielle possible, à travers un certain nombre de dispositions qui sont prises ou qui veulent être prises par monsieur le sénateur Bizet, qui est sénateur de la Manche, qui est membre de la commission des affaires économiques et du plan, membre de la délégation parlementaire pour l'Union européenne, membre de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, c'est curieux vu les dégâts qu'il fait faire, mais enfin il en est, membre de la commission nationale d'information sur les farines animales, président de la mission d'information de la commission des affaires économiques et du plan sur les organismes génétiquement modifiés. C'est le plus grand apôtre des OGM qu'on ait en France, et je vais le prouver par la suite. Président du groupe de travail du Sénat, chargé de suivre le nouveau cycle de négociations commerciales internationales au sein de l'OMC.
Et c'est lui qui est président?
Alors, ce monsieur, vous avez
rapporteur.
Là ce document qui est la synthèse de ses travaux effectués au Sénat entre octobre 2002 et février 2003, et il traite au départ, donc, pour ce qui nous occupe, de l'urbanisme. Alors, les problèmes d'urbanisme, en ce moment, se résument en milieu rural à la conversion de ce qu'on appelait autrefois le POS, plan d'occupation des sols, ça s'est transformé en plus. Alors le plus, j'ai mis un certain temps à comprendre ce que c'était, parce que chaque fois que je demandais à quelqu'un, personne n'était capable de me le dire, même aucun élu, personne ne connaissait le sigle. Finalement, j'ai fini par trouver, le plus, c'est le plan local d'urbanisation. Donc le mot est clair, il veut tout dire, on remplace occupation des sols dans un cadre rural par capacité d'urbanisation. Cette capacité d'urbanisation se place non plus au niveau communal, mais au niveau intercommunal. Et monsieur le sénateur Bizet se vante d'un projet de loi portant sur les dispositions relatives à l'urbanisme, adopté par le Sénat le 27 février 2003, dans lequel on lit titre premier, dispositions relatives à l'urbanisme, associer davantage les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, à l'élaboration, à la modification et à la révision des documents. Supprimer l'obligation d'avoir prescrit une révision générale du plan d'occupation des sols, autrement dit, vous avez une primauté des dispositions de la communauté de communes sur la capacité de gestion de l'occupation des sols de chaque commune, avec les financements donnés d'office à la clé. Et troisième point, mise en place d'un dispositif pour valider les révisions d'urgence en cours. Ça veut dire permettre les passe-droits à tous les gens bien placés. Alors le but du jeu, eh bien on le voit dans un certain nombre de communes, dont une qui est à 4 km de là où j'habite, qui est une charmante commune rurale de quelques centaines d'habitants, ne me demandez pas à 100 près, mais c'est de l'ordre de 300 ou 400, ou peut-être 500 d'ailleurs, peu importe, où on est en train de prévoir l'installation de 60 villas de type logement individuel, mais HLM. Et la question qui se pose, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Ce sont des zones où il n'y a pas d'emploi, pas de capacité d'accueil. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire là ? Alors, j'ai réfléchi à la question et brusquement, il m'est revenu en mémoire, et c'est un peu à cause de vous, puisque c'est à cause de vous que je me suis trouvé forcé d'avoir un ordinateur pour pouvoir m'envoyer mes articles. Donc je stocke dessus un certain nombre de choses. Et j'ai retrouvé une déclaration d'un monsieur Raffarin, Premier ministre, comme chacun sait, au lendemain de la période électorale, on rappelle de période électorale plus exactement, qui date du 7 mai 2002, sur France Inter, où M. Raffarin déclarait « La France est métissée et elle le restera. Il vaut mieux intégrer ceux qui partagent les valeurs de la République. Je souhaite nommer des Français d'origine maghrébine ou africaine à des postes symboliques, recteurs d'académie, préfets, commissaires de police. » Je souhaite ouvrir les élections municipales aux étrangers non européens, il précise bien, résidant en France depuis plusieurs années. Ces gens-là, jusqu'à présent, étaient majoritairement concentrés dans les zones urbaines ou périurbaines. Je crois qu'on peut poser la question de savoir à quoi va servir cette pénétration en zone rurale d'ensemble destiné à un public pour logements sociaux de lotissements de cet ordre. Ouais. Bon, je laisse la question.
Mais c'est, vous parlez de la Manche, mais ça c'est partout en France.
Alors,
qu'on voit s'installer
pourquoi,
ce genre de.
Pourquoi la Manche ? Je ne focalise pas sur la Manche, mais il se trouve que la Manche est un pays en partie qui a effectivement subi un gros exode rural, qui a très peu d'industrie, qui n'a pas encore, du moins dans le nord, parce que dans le sud, grâce au sénateur Bizet, qui est sénateur de la région d'Avrance, on croule sous le lisier, ça y est, c'est comme en Bretagne. Hein. C'est pareil, mais donc le nord était encore resté, et le centre était resté très préservé. Et on constate que, dans la même période, on est en train de lancer dans la Manche une expérience de suppression des postes, remplacés par des bureaux postaux ou des agences postales dans des boutiques. On prévoit par la suite d'en faire autant avec les impôts mal, ça, les des administrations. Hein. Non, mais l'idée de supprimer les administrations, si vous voulez.
Oui, on va supprimer des postes, oui, non, étant mais... le mode de fonctionnement, on peut la supprimer sans grande
ça, mode, c'est un autre discours, je ne rentrerai pas là-dedans. On va supprimer le commissariat de police d'Avranches, entre autres, qui est quand même une municipalité assez importante. Donc, au moment où on est en train de refondre la répartition de la gendarmerie et de la police, qui va certainement aboutir normalement à ramener le plus grand nombre de gens liés au service de l'ordre, du moins je le suppose, dans les zones à densité de population les plus fortes, c'est là où on redéplace des populations prévues comme étant socialement à problème pour les mettre dans des zones où il n'y aura plus de contingents suffisants. J'en dirai pas plus, mais je pense que chacun peut avoir un certain nombre d'idées là-dessus. Et je pense que aujourd'hui, les auditeurs de Radio Courtoisie, comme beaucoup d'autres gens, qui sont des gens qui ont fait le choix d'acquérir des résidences secondaires, de prévoir un jour de reprendre leur retraite dans des zones qu'ils estiment sympathiques, agréables, etc., devraient faire très attention, être très vigilants, voire se mobiliser pour commencer à ce que les gens des villes aient un droit de regard sur les gestions de la campagne. Je pense que c'est important. 90% de la population de ce pays est urbanisée, à peu près, ou 88, quelque chose comme ça. Mais ce sont des gens pour qui cette campagne veut dire quelque chose. La vie à la campagne a pour eux une signification et une qualité. Il faut faire attention à ce qu'elle ne disparaisse pas au et profit alors, de gens.
Quelle solution ?
Ben, la solution, je dirais la première, ce serait que tous ceux qui le peuvent commencent par se faire domicilié sur le plan électoral dans les communes en question. Ça éviterait peut-être que l'on voit, comme dans la commune où j'habite, un maire PSU ou assimilé et deux ou trois autres autour qui font la pluie et le beau temps dans la communauté de communes. Et un certain nombre de choses de cet ordre, ça leur donnerait plus de poids d'adhérer à des associations locales de protection de la nature. Il y en a, et il y en a de plus en plus, parce que ce que je vais vous raconter après, ça marche avec dans le laboratoire, nous sommes en plein dans le développement durable. Et le développement durable dans la Manche, ça marche très bien. Vous savez que je déteste Nicolas Hulot parce que c'est un monsieur qui a toujours l'habitude de parler beaucoup trop de lui et des véhicules divers et variés qu'il utilise plutôt que des paysages qu'il commente, mais ça c'est un autre problème. Pourtant un jour il a fait une réflexion qui était très juste, on lui parlait de Roselyne Bachelot, il a répondu c'est une erreur de casting. J'avais trouvé la formule assez bonne.
Moi j'adore Bachelot, c'est le ministre qui me fait le plus rire. Parce qu'elle a un langage prodigieux. Enfin, on a l'impression qu'elle fait écrire ses textes par un aphasique sous-vitaminé. Et là, au lieu de dire « Demain, j'ai rendez-vous », elle dit « Ou après-demain, j'ai rendez-vous », elle dit « Dans le jour qui suivra, le jour qui suit immédiatement, j'envisage de procéder à un déplacement horizontal de façon à me rendre dans une direction où une autre personne aura accompli un déplacement horizontal en abscisse qui me permettra, en suivant leurs données, de procéder à un rapprochement. » C'est hallucinant, la
façon. Et puis, elle se fait photographier à la corrida, elle claironne qu'elle avance la date de la chasse.
Elle provoque. On a en ce moment une offensive anti-écologique terrible. Alors là-dedans, dans la Manche, autre problème de laboratoire et qui là est dramatique pour toute la France, et je pèse mes mots, les éoliennes de Clipperton.
Ouais, alors là, je ne comprends pas votre histoire parce que vous êtes plutôt écolo, vous, quand même.
Oui, mais moi, je suis écolo.
Écolo-facho, mais écolo.
Bon, écolo-facho, tout le monde le sait.
Écolo-roico, bon, je ne sais pas.
Oui, c'est pas la question.
Et alors, vous êtes contre les éoliennes.
Mais je vais vous dire, moi je suis pour les trucs qui servent à quelque chose. Voyez-vous, là, nous étions autour du 15 août.
C'est comme les hommes politiques, ça fait du vent.
Mais non, justement, ça l'utilise.
Ah, oui,
quand il y en a. Voyez-vous, il y avait monsieur Cotenceau, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'adjoint à la mairie de Paris, là.
Je ne fréquente pas
celui-là. C'est celui qui s'occupe de Paris-Plage et autres histoires de ce genre, de la voirie et du reste. Enfin bon, c'est un nom comme ça.
Ah, la voirie, c'est ces voitures qu'on remplit par derrière.
C'est ça, oui, lui aussi. Mais enfin, c'est un autre problème. Et donc, on l'avait interviewé à la télévision, j'avais vu ça, au moment où on commençait à se plaindre des hécatombes que l'on voyait arriver avec des centaines de morts. On ne savait pas si c'était des centaines ou des milliers et on contestait les chiffres des pompes funèbres qui, quand même, les ramassant et fournissant les cercueils, devaient avoir une idée assez précise sur la question.
Et on en plus, ils ont tendance à sous-évaluer pour le fisc, normalement.
Vous êtes affreux. Serge, vous êtes affreux. Et alors, il disait, ben oui, mais la chaleur, c'est normal, ça devait arriver, c'est la faute à la pollution. C'est bien connu. Depuis le temps que nous, écologistes, nous serions ça, qu'il faut arrêter d'utiliser les énergies fossiles, quand on sait que Greenpeace est payé par tout le lobby pétrolier pour lutter contre le nucléaire, et que les énergies fossiles sont quand même ce qui produit le plus de déchets carbonés, méthaniers et autres, donc l'essentiel de l'effet de serre, il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, l'électricité non nucléaire est la première source mondiale de production carbonée. Quand on dit que l'électricité est une énergie propre, c'est l'énergie la plus sale qui existe. C'est à l'heure actuelle 40% des gaz à effet de serre dans le monde, faut pas l'oublier.
Est-ce que vous avez entendu cette information qu'il y a 3-4 jours, selon laquelle, je crois que c'était un hôpital, qui avait eu l'idée d'installer à grands frais une chaufferie écolo. Alors ils ont fait une chaufferie à bois. On leur livrait des bûches qu'ils mettaient dans la... Et ça, je crois que c'est l'hôpital. Hein.
Oui.
Et, bon, et puis, je ne sais plus pour quelle raison, ils ont sorti les cendres. Et ils ont... En sortant les cendres, ils ont fait passer le camion de cendres sous un portique d'alerte nucléaire. C'est-à-dire qui bipait quand... Et le portique s'est déclenché. On a découvert que les cendres dégageaient, les cendres de bois tout à fait naturelles et écologiques, dégageaient à peu près 50 fois plus de radiation que le matériau nucléaire sortant d'une centrale nucléaire. Alors, donc on a arrêté immédiatement et on a remplacé la chaudière à bois par une chaudière à gaz. Tout ça, naturellement, aux frais de la princesse. Bien.
Et on a recommencé à faire des gaz à effet de serre. Voilà. Donc, donc il expliquait que si on avait des éoliennes, le problème ne se poserait pas. Il a donc dit ça à Paris le 14 ou 15 août par là. À ce moment-là, je suis sorti parce que dans mon charmant petit bled de bord de mer, là-haut, il n'a jamais fait plus de 25 ou 26 degrés. Je vous préviens, moi, la canicule, je ne l'ai pas subi cet été. Mais donc, je suis sorti, il était 3 heures de l'après-midi ou 2 heures et demie. Il y avait un soleil magnifique. Là, il devait faire un peu plus chaud, peut-être 28. Il y avait pas un souffle d'air. Alors ces éoliennes, j'aurais bien voulu savoir avec quoi elles auraient tourné.
Mais ben, on peut, les gens qui vont habiter dans les pavillons que vous expliquiez là, dont vous parliez tout à l'heure, on les fait venir et on leur installe, où ils souffrent, où on installe des chaînes et des pédaliers. Pour
des vélos sur le dos, là, comme ceux dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, je me rappelais l'époque du bizutage de ma jeunesse dont je ne suis pas mort, où les anciens nous faisaient monter sur un tabouret en remuant les bras et nous
faisaient répéter, je suis content comme un
voyage. D'accord. C'est connu. Donc, charmant petit village, entièrement 16e, 17e siècle, où le maire, disons que pour des motifs personnels et ceux d'un certain nombre de personnes qu'il connaissent bien, a jugé utile de prévoir des implantations d'éoliennes sur des terrains donnés. Vous voyez ce que je veux dire?
Donné, bah, si c'est donné, alors ça va, il n'y a pas de problème.
Non, mais des terrains précis.
Ah bon,
pas donné à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Bien. Parce que là, faut quand même compter, voir là-dessus ce que ça représente. En millions d'euros en droit éolien, ouais. C'est colossal.
Et alors donc, il n'y a pas de vent?
C'est pas qu'il n'y a pas de vent, c'est qu'il y a du vent par période. Mais le problème, c'est que ces terrains-là, pour certains d'entre eux, se trouvaient à 300 mètres de certaines maisons.
Et alors?
Comment et alors? Vous savez ce que ça représente en décibels quand ça tourne, ces trucs-là?
Ah non, justement, c'est là-dessus que je vous
attends. Ça tourne au minimum entre 90 et 100. Et le docteur qui est à côté de moi, je le vois déjà qui commence à rire. Alors docteur, je vous en prie, ça s'arrête normalement.
Bah, 90, c'est le niveau de douleur de...
Ouais, largement, hein, fais-y à 90, c'est pas agréable. Hein.
Voilà. Mais bon. Ils veulent peut-être louer les maisons à des sourds.
Mais ils veulent pas louer les maisons à des sourds parce que les maisons qui sont là, elles appartiennent à des gens qui sont forcément pas très contents. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le premier projet qui sort, et ça n'est pas un hasard, à la suite d'une loi qui a été votée par un autre sénateur, qui est le président du Conseil général de la Manche, qui s'appelle M. Legrand, lequel, justement, pour les projets d'éoliennes maintenant, demande, ce qui n'existait pas avant, pour les projets d'une certaine importance, une enquête publique préalable. Comme l'enquête publique préalable est confiée à un commissaire enquêteur dont le rôle est d'expliquer qu'il faut rendre un avis favorable parce que sinon il n'aura plus d'enquête publique à faire la semaine suivante, donc les enquêtes ont toujours un avis favorable, ils vont avoir maintenant la possibilité de faire passer l'idée suivante, il n'y a pas de distance minimum requise pour les implantations d'éoliennes. L'affaire de Clitour va faire jurisprudence. C'est absolument dramatique.
Ça va faire du bruit.
Et ça va faire du bruit. Alors il y aura deux solutions, où les gens vont partir, ou ils vont les faire sauter. Et faut pas les prendre forcément pour des imbéciles.
Ah ben non, c'est pas des imbéciles.
Mais c'est
pas
un
des
problème.
Poseurs de bombes quand même. On
c'est
pas...
un problème et ça commence à beaucoup remuer.
Mais alors, là, comme il nous reste que 3 minutes, je voudrais que vous veniez directement à l'autre histoire d'éoliennes parce que vous êtes quand même un curieux personnage. Vous venez de nous expliquer que les éoliennes c'est l'abomination de la désolation.
Non, puis... je dis pas que c'est l'abomination de la désolation, mais je dis que c'est des endroits où ça ne peut pas servir tout le temps.
Et puis après, vous nous dites que on refuse de célébrer le centenaire de Georges Claude, qui est un grand savant, un grand génie scientifique français, qui avait inventé les éoliennes sous-marines, qui d'ailleurs devraient s'appeler plutôt des...
Ça s'appelle pas, ça s'appelle des hydroliennes. Non, mais je veux dire que c'est très amusant de voir que Georges Claude, qui est un homme qui a été un des plus grands savants qu'on ait eu en France, qui a eu exactement la même destinée qu'a pu avoir Alexis Carrel, sauf que lui n'est pas devenu prix Nobel parce que il y a eu...
Il n'est pas parti en Amérique.
C'est pas qu'il n'est pas parti en Amérique, c'est que il a fondé la LVF entre-temps avec Abel Armand et Abel Vanin, ça s'est mal terminé. Ça, c'est un autre sujet.
C'est pas la meilleure idée scientifique qu'il ait eue.
C'est pas forcément la meilleure idée scientifique qu'il ait eue, mais il avait inventé cette idée d'utiliser avec des hélices à pales les mouvements d'eau entre les courants chauds et froids.
C'est la marée motrice de la Rance.
Non. Non. Ça, c'est la marée motrice de la Rance. C'est pas un problème. Il n'y a pas de transfert thermique entre deux couches d'eau parallèles. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est en train de remettre ça en place maintenant. Cette histoire-là date de 1926, si ma mémoire est bonne. Ça veut donc dire que s'il n'y avait pas eu les événements politiques qu'il y a eu, et si surtout on n'avait pas jeté l'anathème qu'on a pu jeter sur les travaux de ce monsieur parce qu'ils avaient été faits par ce monsieur, il y a peut-être déjà 50 ans que ce genre de problème serait résolu. Il faut quand même y réfléchir.
Donc saluons la mémoire de Georges Claude, mais on pourrait essayer d'en reparler un peu plus longuement dans une autre émission, si vous voulez, peut-être la semaine prochaine, puisque vous allez revenir pour nous parler de tout à fait autre chose.
Ah, parce que vous voulez que je revienne la semaine prochaine?
Mais oui, c'est prévu.
Ah, mais vous m'aviez... Ah bon, alors à ce moment-là, je parlerai de l'offensive porcine la semaine prochaine. Ne mettons pas tout à la fois.
Ne mangeons pas tout le cochon ce soir. En revanche, il faudra tout à l'heure que vous annonciez votre opération « Sauver un cheval ».
C'est pas une opération sauver un cheval, c'est pas exactement ça. Je sais que vous aviez eu la gentillesse l'année dernière de me donner un petit peu la parole là-dessus. Je vais le faire très rapidement, ça ne pose pas de difficulté, ça va être très rapide. On avait donc, dans le cadre de la Ligue française de protection du cheval, dont je m'occupe beaucoup, lancé une grande vente pour sauver un élevage de chevaux dans une vente judiciaire. Cette vente a été un tel succès que cette année, un certain nombre de gens sont retournés voir le commissaire priseur en question et sont venus me voir. En nous disant, là, il ne s'agit pas de faire une vente judiciaire, mais vous avez une équipe qui fait des ventes superbes. Forcément, on avait fait une très belle vente. On voudrait vendre des chevaux, et comme c'est une position centrale en France, ça peut être intéressant. Donc nous avons cette année une vente qui aura lieu le dimanche 28 septembre à Vic-Exemplet, à la limite du Cher et de l'Indre. Pour les gens que ça pourrait intéresser, soit... pour vendre des chevaux, soit pour en acheter. Mais nous parlons bien là de chevaux en état, de chevaux de concours, de chevaux de prix, même de chevaux de grande lignée. Ils peuvent s'adresser directement à l'étude de Maître Valérie Maudieu, commissaire priseur, à Saint-Amand-Montrond. Le téléphone, c'est le 02 48 96 41 73. Mais je crois que grâce à Serge, j'aurai l'occasion d'en reparler.
Absolument, on en recausera, comme on dit, quand on est bien élevé.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. Je vous rappelle notre rendez-vous musical de 21h tout à l'heure. Série jazz à 22h avec l'audio, les musiques de films, puis Kuhn Wupek avec les ouvertures, des œuvres de Gabriel Fauré. Tout cela à partir de 21h ce soir. Et puis tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge Bekech en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 septembre 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 11 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eh bien, nous voici de nouveau réunis, mon cher vieux pays, comme disait un général de mes amis. Alors, je voulais donner la parole au père Argouache, mais il est parti. Je ne sais pas ce qu'il est allé faire. À mon avis, il est parti causer avec le docteur Plantet qui nous a quittés. Donc, ma chère Cécilia, vous emportez la première place sur le podium,
pour une fois.
Et je vous donne la parole pour recevoir votre délicieuse invitée, dont je vais donner le nom. Dès que j'aurai retrouvé votre papier, c'est-à-dire probablement d'ici un mois ou deux. Donc je vais le nom et les qualités.
D'abord, je salue les auditeurs. Je n'ai pas de petite musique ce soir, tant pis, on s'en passe.
Si, vous aurez une petite musique.
Alors je salue les auditeurs, c'est toujours avec plaisir que je les retrouve. Et j'accueille ce soir Valentine de Ganay.
Voilà, et musique.
Donc je présente Valentine de Ganay, qui est écrivain, Ce n'est pas à ce titre qu'elle est là ce soir, parce que je crois qu'elle se consacre à la science-fiction, plus ou moins.
La fiction.
La fiction. Et elle est aussi la fille de l'actuel propriétaire du domaine de Courance. Elle vient nous parler de Courance et d'un très bel ouvrage dont elle a pris la direction de la rédaction et qui est très beau. Alors, je vais quand même commencer par quelques petites annonces.
Vous le donnerez en partant le livre ou vous le gardez comme d'habitude?
Non, il m'a été dédicacé.
Voilà, non, mais c'est ça, c'est toujours pareil. Je n'en ai plus aucun intérêt. Avant, je me faisais acheter, mais non.
Si vous voulez acheter quand même, vous aurez déjà droit à ça. Alors d'abord, au Parc Florac de la Source, à Orléans, du 12 au 15 septembre, se tient le 3e Salon international du Fuchsia, qui consacre cette année le tricentenaire de la découverte du Fuchsia. C'est un botaniste qui s'appelait Charles Plumier, qu'il a découvert en Haïti. Il a donc 300 ans. Je donne la façon d'entrer au parc de la Source. Je crois que tout le monde connaît auprès d'Orléans ce parc qui est ouvert absolument toute la saison. L'entrée, alors on téléphone pour les renseignements pour le salon du Fuchsia. Et le 02-38-49-30-00. 02-38-49-30-00. Et les tarifs pour l'entrée ordinaire, je ne sais pas, pour le salon, vont de 3,60 euros à 4 euros selon si on est un adulte, un enfant, et si on visite le parc plus la serre. La Société nationale d'horticulture de France annonce son cinquième salon, du livre de l'horticulture, Hortilivre, qui se tient du 26 au dimanche 28 septembre 2003 à l'Orangerie du Jardin du Luxembourg. À cette occasion, pratiquement tous les ouvrages parus touchant l'horticulture, l'art des jardins, l'art floral, la botanique sont là. Les auteurs y dédicacent leurs livres. Une présentation de champignons sera mise en scène et un café littéraire accueillera rencontres et débats. Alors je répète, vendredi 26 au dimanche 28 septembre, de 10h à 18h30, tous les jours, entrée libre à l'Orangerie du Jardin du Luxembourg. Et puis si on a envie de faire une petite virée un petit peu voisine du Père Arguas, on va jusqu'à Bruxelles, où se tient, où a lieu le 6e concours international d'art floral, les 3, 4 et 5 octobre prochains, sur le thème « Nature, source de vie ». Et il est 23 étrangers y participent, 87 concurrents belges. Il est de tradition de transformer ces concours d'art floral en exposition les deux derniers jours. Donc je vais dire où on peut se rendre si on est dans les environs de Bruxelles. C'est à Maizeu, je ne sais pas comment on prononce très bien, au Jardin botanique national. Les heures d'ouverture, les samedis 4 et dimanche 5 octobre, sont de 10h à 17h. Le droit d'entrée est de 3 euros. Alors, si on est en voiture, on se débrouille. Si on est à pied, on prend le bus au stade Roi Baudouin à Isel, de sinistre mémoire. Et on s'arrête devant le Plantentuin. Voilà. En général, ces concours d'art floral apportent toujours beaucoup à l'art floral. J'ai quelques livres. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais présenter un roman. Le Jardin des Cinq Plaisirs, d'Arnaud de Fayette. Valentine de Ganay m'a dit qu'il fallait prononcer Fayette pour faire plaisir à l'auteur. C'est un roman qui est en fait le journal apocryphe de Le Nôtre. Et de Vaux-le-Vicomte à Versailles, on y décrit de l'intérieur la fidélité de Le Nôtre à Fouquet, son attachement à Louis XIV, sa grande familiarité, son amitié aussi avec le roi, malgré la vénération qu'il avait pour lui, et toutes les grandes choses qu'ils ont faites ensemble. Il dit que c'est vraiment ensemble qu'il a fait tout cela. Et on assiste à la création de Vaux-le-Vicomte et de Versailles. À des choses plus intimes aussi, je suppose qu'Arnaud de Fayette a des sources sûres, parce que là, il entre vraiment dans l'intimité du personnage. Et le titre est donné par un jardin privé qu'il avait aménagé pour une dame avec laquelle il était en relation. Voilà, alors c'est Flammarion qui publie ça et ça coûte 20 euros. Le Jardin des Cinq Plaisirs d'Arnaud de Fayette. Et alors un autre très beau livre, Serge, que je n'ai pas apporté parce que je suis venue en train et il pèse 5 kilos, donc déjà ça c'était déjà trop lourd. C'est Marly, l'autre palais du soleil. Alors ce soir on tourne vraiment autour des beaux jardins, des beaux domaines. On prétend que Courance aurait inspiré Le Nôtre, vous allez en parler tout à l'heure. Marly et le jardin qu'il n'a pas dessiné. Ce roman, lui, est entièrement consacré. Bon, il est à l'honneur ce soir. Marly, l'autre palais du soleil de Vincent Marotto. Alors, Saint-Simon disait que Marly avait été créé pour les amis du roi et que c'était vraiment le désir le plus intense de tous les courtisans d'être invité à Marly. Et il n'en reste pratiquement rien, sauf les jardins. Donc ce livre n'est pas constitué de photos, mais de documents, de pièces de porcelaine, de meubles, de tableaux, de portraits des gens qui ont vécu là-bas. Il est absolument superbe. Ce sont les éditions Vogeleux qui publient ça. Vogeleux. 48 heureux.
Vogeleux.
Je sais pas comment on prononce.
Petit oiseau, ça veut dire. Vous connaissez la célèbre histoire ? On dit le français est une langue gutturale alors que l'allemand est une langue douce. Mm-hmm. On dit la preuve, die kleinen singen, Vögel singen in den Wald, ça veut dire les petits oiseaux chantent dans la forêt.
Oui, évidemment, mais voilà. Comme ça, oui.
Donc les éditions Vögel.
C'est une édition suisse de Genève, mais je pense qu'on le trouve en librairie et de toute façon, si on a des ennuis, on peut s'adresser au Cercle du patrimoine parce que c'est cette association qui est à l'origine de ce livre. Et je donne le numéro de téléphone, le 01 48 87 75 61, 01 48 87 75 61, et c'est d'ailleurs le...
Non mais comment voulez-vous sérieusement qu'un auditeur ou une autrice note ça?
Alors, 01 48 87 75 61, je n'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de temps, c'est pour ça que je me presse. Alors, de toute façon, le livre est absolument... Superbe, c'est vraiment un objet d'art, hein, avec des documents de l'époque.
Prudente.
Alors, ce soir, j'arrive à Courance.
Ça, c'est un autre objet d'art. Là. Je viens de le feuilleter.
C'est
là.
Plus ça, que
c'est
ça.
Quelque
parce
chose
que
de
c'est
magnifique.
Un livre très complet. Il est historique, il est romantique, il est poétique, il est tout.
Gastronomique.
Ah, gastronomique, il y a des photos et des recettes. Ouh là là.
Alors, Valentine de Guenet est donc la fille du propriétaire actuel de ce domaine. Elle va nous parler de ce que son papa essaie de faire aussi avec ce domaine. Et elle a été la directrice avec Laurent Lebon de cet ouvrage. Alors, quel est l'aspect, parce qu'ils sont tellement nombreux que vous
mais
voulez.
Je voudrais poser une question d'abord.
Oui,
c'est le lieu où ça
alors,
se trouve,
où ça Courance. Se trouve Courance.
C'est très facile d'accès parce que c'est à moins d'une heure de Paris, par l'autoroute du Sud, sortie numéro 13, avant le péage de Fleury. La sortie s'appelle Milly-la-Forêt et ensuite on ne peut pas se perdre, c'est à peu près à 3 km de cette sortie. Alors, quels étaient les aspects, vous me demandez, les plus...
Privilégiez-vous, parce qu'on ne peut pas énumérer tout
non,
ce qui est
non, il y a 30 collaborations qui constituent donc cet ouvrage c'est... collectif. Mais je pense que les aspects les plus nouveaux concernant Courance, parce qu'il y avait... Courance était souvent citée dans des livres de jardin, était même connue à l'étranger, avait une bonne réputation, on va dire, mais il n'y avait jamais eu un discours précis sur... Qu'est-ce que c'était Courance ? On parlait d'un parc classique, on parlait quelquefois même d'un parc attribué à le nôtre. Alors on a essayé de préciser le discours au sujet de ce lieu. Et je dirais que la grosse découverte, c'est que c'est un parc beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait. Ça n'est pas du tout un parc classique, enfin, ou très accessoirement. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement un parc du 17e, ça n'est pas du tout un parc de le nôtre. On pourra peut-être parler de cet épisode là plus mm-hmm. précisément, parce que c'est assez rocambolesque, les disputes historiques qu'il y a eu à ce sujet. Mais c'est un parc de la Renaissance. Et Françoise Boudon, l'historienne qui a développé ce chapitre, on en est un petit peu à la genèse en France de l'histoire des jardins, mais émet l'hypothèse qu'il y aurait donc en France, après le jardin clos médiéval et avant le jardin classique, un autre style de jardin à la Renaissance, donc à la fin du XVIe siècle, qui serait le jardin d'eau. Et alors Courance était très bien placé pour s'exprimer dans ce style, puisqu'il y a 17 sources, 14 sources à Courance, 17 pièces d'eau. Donc l'eau y était prodigue naturellement. Mais ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, cette mode du jardin d'eau ne vient pas d'Italie, comme on
pourrait, on pensait,
le visualiser, les villas avec toutes ces pentes d'eau en surplomb de la maison, mais vient en fait des pays du Nord et des aménagements du territoire, donc quelque chose de très public comme techniques qui ont donc été apportées, très pratiques. Et ce sont ces techniques-là qui ont donné, disons...
C'est pas de l'irrigation, c'est du drainage.
Voilà. Absolument, c'était, mais enfin, tout était encore à l'époque, hein, tantôt pour des, dans un but de culture et décoratif ou même défensif. Les trois missions étaient jointes. Donc je pense que ça, c'est quand même une des grosses découvertes du livre. Mais donc ça intéresse pas seulement Courant. Il y a un style de jardin qu'il reste à explorer, donc qui serait le jardin d'eau. Et aujourd'hui, disons, il y a eu sûrement beaucoup de jardins d'eau splendides à l'époque. Courance est très certainement le plus bel exemple conservé de cette époque.
Et vous dites que Courance est un peu ignoré du grand public, alors qu'il est ouvert au public depuis presque 20 ans.
Le parc est ouvert depuis l'après-guerre, le château depuis 81, mais peut-être parce qu'il n'y avait justement pas une connaissance... Il n'y a pas d'animation et ça, on tient à rester sur le fait que le lieu en lui-même est romanesque et mystérieux. Il n'y a pas besoin d'en rajouter dans les animations. Il y a suffisamment de choses à découvrir, suffisamment de surprises à voir pour ne, je ne crois pas, rajouter d'autres choses au lieu lui-même. Mais je pense qu'il n'était pas connu parce que contrairement à d'autres lieux comme Vaux-le-Vicomte ou Fontainebleau voisin, on connaissait très bien son histoire, leur histoire, alors que Courance, il n'y avait rien de précis. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose de... Enfin, ces découvertes que j'ai évoquées, il y a des aménagements également qui ont été faits tout récemment. Mon père s'est chargé après la guerre, enfin depuis 50 ans, de donner un aspect qui caractérise ce lieu et qui lui donne presque un aspect moderne, certains disent, une simplicité, un minimalisme même, assez surprenant pour un parc historique. Je me perds, j'ai oublié ce que je disais.
Le côté moderne.
Voilà, aujourd'hui, je pense que des gens peuvent être touchés par cette dimension très sobre qu'a ce parc. Et aussi, c'est un autre aspect qui fait que ça touche peut-être les sensibilités contemporaines, c'est une présence de la nature plus importante que dans la plupart des parcs historiques.
Sur l'herbe,
on est même obligé de marcher sur l'herbe car il n'y a presque plus d'aller en gazonner. Ça, c'est un choix d'entretien pour lequel a opté mon père. Les arbres ne sont pas taillés en rideaux, ce qui donne un aspect romantique. Certains ont pu parler, ont pu dire de Courance que c'était le seul parc classique romantique en France. Donc deux adjectifs qui habituellement ne vont pas ensemble. Donc cette présence de la nature plus forte qu'ailleurs, c'est beaucoup d'arbres qui ont une personnalité sont laissés, même s'ils penchent dangereusement par-dessus le visiteur, parce qu'on trouve qu'ils ont du charme. Tous ces détails font que cette présence de la nature et ce mode d'entretien inventé par mon père font que je crois que c'est un parc très différent des parcs historiques habituels où, personnellement, moi, je m'ennuie.
Je peux témoigner, Cécilia, si vous m'accordez la parole un instant, de l'ignorance du public. Je suis l'ignorant de service, comme bien souvent dans cette émission. Et je peux le faire particulièrement parce que cette sortie d'autoroute de Milly-la-Forêt, par contre, je la connais très bien comme des dizaines de milliers de Parisiens parce que c'est là qu'on sort pour aller faire de la varappe, de l'escalade à Fontainebleau. Et je très fréquemment, avec mes amis, nous sommes arrêtés à Milly pour B, devant la halle du marché qui est en bois, qui est très ancienne, qui est très belle. Et j'avoue qu'en feuilletant votre livre, qui s'appelle Courance, tout simplement, chez Flammarion, je suis rétrospectivement, mais sur les 30 années écoulées, terriblement frustré et malheureux de ne pas avoir soupçonné à deux pas l'existence de ce site.
Mais je crois que toute cette région est très méconnue. Parce que vous parliez de Milly, il y a le cyclope de Tinguely, juste à côté, qui est superbe, qui n'est pas très connu parce qu'il est dans la forêt, il faut savoir y arriver. Tous ces villages sont admirablement préservés. Ils n'ont jamais vraiment... Il y a une exploitation, disons, touristique qui n'a pas encore été faite, Dieu merci peut-être, mais il y a beaucoup de choses, en effet, à découvrir. Et dans ce livre, on a voulu aussi faire percevoir la qualité du paysage au-delà de ce domaine, parce que il y a un autre château tout à côté qui s'appelle Fleury-en-Bière. Le parc est ouvert à l'occasion des journées du patrimoine. D'habitude, ça n'est pas ouvert au public. Et entre, disons, la plaine, entre Courance et Fleury, et plus largement, c'est vraiment, on ne peut pas croire qu'on est seulement à 50 km de Paris.
Vous étiez sur le point de nous dire si le parc était ouvert au public ou sous forme de livre seulement, ou si on peut visiter.
Non, Courance est absolument ouvert, le château et le parc. Non, Fleury, je disais, n'est ouvert au public que lors des journées du patrimoine, c'est-à-dire c'est l'occasion de s'y balader, donc le week-end prochain. Mais habituellement, on peut, en passant, cela dit, apprécier la qualité du bâtiment, que je dirais supérieure à celle du bâtiment du château de Courance. L'histoire qu'on raconte, c'est qu'il faudrait mettre le château de Fleury dans le parc de Courance. Et là, vraiment, ce serait le meilleur des mondes.
Gros travail.
Alors, les contributions sont extrêmement variées, nous l'avons déjà dit. Vous parlez de l'histoire de la maison. Rien que le château lui-même justifierait une autre intervention. Il y a des tas de choses.
Je crois qu'Alexandre Gadi est déjà venu sur votre radio parler d'autres sujets, certainement, mais c'est lui qui s'est chargé donc d'un autre scoop, peut-être moins glorieux mais amusant, qu'il doit signer lui. Puisqu'on s'est rendu compte que Courance avait été toujours présenté comme un archétype de l'architecture Louis XIII, briques et pierres, et il a découvert qu'en fait, les briques avaient été ajoutées en 1872, époque donc où ma famille acquiert ce château. Et c'est véritablement un château Louis XIII, cela dit, bâti entre 1628 et 1630, donc à l'époque du style Louis XIII, mais ce style vraiment tel qu'on l'a dans l'esprit, dans l'imaginaire, c'est vraiment Hippolyte des Tailleurs, donc l'architecte au XIXe, qui l'a illustré. Donc on peut parler d'un château Louis XIII deux fois.
C'est drôle, c'est amusant. Ouais.
Alors, c'est la contribution d'Alexandre Gadi. Il y a d'autres historiens, Olivier Poncet, pour la succession des propriétaires et le statut social des propriétaires qui change au fil des siècles à mesure que l'endroit devient sophistiqué, surtout les jardins. Il y a donc Monique Moser, pour la grande historienne des jardins, pour le gros de la durée, je dirais après Françoise Boudon et l'affaire de la Renaissance, Monique Moser prend le relais jusqu'au Duchesne. Elle fait une découverte aussi intéressante, parce qu'on connaît le rôle des Duchesnes maintenant quant à ceux qui réinventent le parc classique au début du XXe siècle, mais elle a découvert que des tailleurs, donc l'architecte, était également un paysagiste. À Courance, il y a des choses qu'on peut lui attribuer, donc c'est vraiment une découverte à son sujet. Et puis il y a des collaborations diverses et parfois inattendues de plasticiens contemporains. Martine Wald, qui sur un fond de carte fait une image un peu surprenante. Mon mari Marcus Hansen, qui a fait une double page, enfin qui a fait énormément des images de ce bouquin, en particulier toutes les photos d'hélicoptères, beaucoup de vues aériennes qui aident à savoir où on est.
Ça, c'est tout à fait intéressant dans le livre que je viens de feuilleter. Il y a beaucoup de photos aériennes qui sont très démonstratives, qui vraiment montrent quelque chose.
Côte à côte avec les cartes.
Ça va très très loin. C'est un véritable dossier. Il y a notamment des photos à l'infrarouge.
Oui, ça, on s'est amusé parce que j'avais entendu dire que les photos à l'infrarouge permettraient les traces humides d'éventuelles anciennes pièces d'eau. Alors malheureusement, on n'a rien trouvé, mais je trouve le document esthétiquement tellement fantomatique, tellement poétique, que j'ai voulu quand même le mettre. Il y a, au point de vue image, il y a quand même des documents intéressants aussi. Il y a des carnets de travail de Duchesne que son descendant a bien voulu nous prêter pour qu'on puisse les faire voir. Donc vraiment, on comprend comment il travaillait et qu'est-ce qu'il inspirait. Versailles, par exemple, évidemment. Il y a des photos inédites de Cuvelier, donc le copain, les peintres de Barbizon, qui est venu travailler à Courance pendant que ce château était abandonné, donc au 19e, pendant 42 ans. L'endroit a été abandonné et c'est donc dans un état de grand délabrement que mon ancêtre en 1872 l'a racheté. Qu'il y a d'autres, il y a plusieurs cuisiniers qui ont fait deux doubles pages pour inventer des recettes locales.
Alors, c'est vraiment ces deux pages qui vous me font monter l'eau à la bouche.
Mais vous devez essayer, tout est réalisable et je crois que tout est bon. En tout cas, moi, ça m'apparaît bon quand je les ai goûtés. Il y a bien sûr des points de vue de botaniste et de paysagiste. Pascal Cribier ouvre le discours en se promenant dans ces lieux et en expliquant de façon très très concrète pourquoi, à son avis, ce qu'un promeneur peut éprouver à Courance diffère de ce que quelqu'un d'autre, de ce que quelqu'un peut éprouver dans un autre parc historique. Et lui impute ses sensations vraiment au mode d'entretien qui a été inventé. Donc il parle d'un entretien sensible, ça n'est pas préprogrammé, ça se joue avec le temps qu'il fait, on révise les directives le lundi matin, et ce genre de comment dire, corps à corps avec le lieu, je crois, est assez unique aujourd'hui.
Et ça, c'est l'invention de votre père.
Je pense qu'on peut le dire, oui.
Il y a des plans, des vues cavalières, des dessins magnifiques.
Je crois qu'on a rassemblé tout ce qui était aux archives de Chamarande, donc qui sont les archives départementales, parce qu'il n'y a plus beaucoup de choses au château de Courance. Mais en fait, il y a très peu de plans. Et ça peut aussi expliquer pourquoi, contrairement à d'autres parcs public pour la plupart, il n'y a jamais eu à Courance un espèce de fétichisme par rapport à l'histoire. Mmh. Il y a eu un respect de l'histoire et je pense une intelligence du lieu de la part de tous les propriétaires qui se sont succédés, mais il y a eu aussi une grande liberté.
Oui, c'est chacun a apporté, voilà. Enfin, a traité la propriété comme sa propriété.
Absolument.
J'ai envie de faire ça, je le fais.
Voilà.
On voit les photos, c'est quelque chose de très très vivant et très mobile. Hein.
C'est vécu, ça se réinvente, il n'y a pas d'idée préconçue ou de dogme sur comment devrait être ce genre de lieu.
Ça n'a aucune ressemblance avec certains châteaux qui donnent l'impression de sortir de Disney World, pierre bien brossée. Tout là, il y a une vie.
Une épaisseur de temps, je crois qu'on perçoit même si on ne l'a.
Après,
c'est
les photos,
pas.
J'ai très envie d'aller le voir.
Vous disiez que même les visites guidées sont libres quelquefois.
Il n'y a pas, si vous voulez, le château, la visite du château se fait avec des guides, mais le parc, c'est comme on veut, le petit tour, le grand tour, dans un sens, dans un autre, c'est tout à fait libre, on marche sur l'herbe, comme on l'a déjà dit. On a rédigé, suite au livre, quand même de nouveaux documents, parce que je pensais que c'était dommage que le visiteur ne sache pas certaines des choses dont on a pu parler là. Et donc, il y a un plan, maintenant, qu'on reçoit gratuitement à l'entrée, et au fil de la promenade, on peut, comme ça, se référer à certains points de vue stratégiques où plusieurs histoires sont racontées.
Un peu et tout. Alors, on peut parler, on peut avoir une petite pensée pour le fameux Magnolia en Espagne.
Tout à fait. Ça, c'est une invention de ma mère. C'est quand même un haut fait botanique pour dissimuler la différence de la brique utilisée donc par des tailleurs, l'architecte dont on a parlé, qui a fait quelques ajouts au 19e. La brique moderne a été du perron et du perron côté parc et du grand escalier copié sur celui de Fontainebleau côté arrivée. Ma mère a repoussé donc côté parc sur le perron des Magnolia grandiflora en espalier. Et c'est formidable parce que c'est un feuillage persistant, ça ne bouge pas et on oublie donc de quelle époque est ce perron.
Et puis ça devient beaucoup moins encombrant qu'un Magnolia en général. Les journées du parc, vous
avez quelque chose à dire? Oui, je vais terminer parce que je vais vous prendre la parole.
Bon, alors les journées du patrimoine.
Journées du patrimoine, donc le 20 et le 21 septembre, samedi et dimanche dans 10 jours. À cette occasion-là, le parc et le château seront ouverts toute la journée, alors qu'habituellement ils ne sont ouverts que l'après-midi. Et certains auteurs du livre, donc Alexandre Gadi pour l'architecture, Monique Moser pour l'histoire des jardins, et moi pour l'aspect, disons, contemporain et peut-être vécu des lieux, nous promènerons avec les visiteurs, assistés de plusieurs étudiants en architecture et en histoire du paysage, afin de raconter toutes ces histoires qu'on a évoquées aujourd'hui.
Alors, vous indiquez les moyens d'accès à Courance.
Alors, par l'autoroute du Sud, j'en ai parlé tout à l'heure. Malheureusement, il n'y a pas de train très proche. Il y a le RER qui va jusqu'à Boutigny, 40 minutes, mais ensuite, il faut se débrouiller. Enfin, il y a des taxis qui vous amènent c'est à 10 minutes de Boutigny, Courance.
Alors, les entrées, le parc et le château sont ouverts de Pâques à la Toussaint.
Habituellement, de Pâques à la Toussaint, les week-ends, les après-midi seulement. Par contre, les prix, je parlerai seulement des prix pour les journées du patrimoine, c'est 6 euros le parc et le château, 4 euros le parc seul.
Et si on veut visiter en groupe
Le numéro de téléphone pour le week-end, c'est le 01 64 98 41 18. Un répondeur vous informe. Et si on veut visiter en semaine en groupe, il faut téléphoner au 01 40 62 07 71.
Mais écoutez, j'espère que vous aurez énormément de visiteurs ces deux journées.
Grâce à vous,
sincèrement, Courance le mérite. Alors, il faut rappeler que le livre est publié chez Flammarion sous la direction de Valentine de Ganay et Laurent Lebon et qu'il coûte 45 euros.
Voilà. Sous le titre de Courance,
tout simplement.
Alors, merci beaucoup.
Il y avait un message: à qui appartient le château de Fleury-en-Bière? Peut-on le visiter?
Alors, le château de Fleury-en-Bière appartient à trois des frères de mon père. On ne peut pas le visiter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le parc, exceptionnellement lors des journées du patrimoine, est ouvert au public.
Alors moi, j'ai juste une petite non-réponse, parce que je ne la connais pas. Que pensez-vous des haricots du Saint-Sacrement? Chaque graine porte un ostensoir. Certaines sont ornées de deux palmes. Est-ce naturel? Et même un ecclésiastique consulté avoue son ignorance. Je ne sais rien des haricots du Saint-Sacrement. J'essaierai de me renseigner.
Je sais comment on les cultive et que ça fait mon admiration.
Ben voilà, il faut interroger.
Au Sable d'Olonne, quand je vais en Vendée, de voir ces haricots avec l'ostensoir, j'ai en grande admiration. Ah ben on m'a raconté l'histoire. mais je ne l'ai pas retenu, j'ai une toute petite mémoire.
Naturel ou non,
et je sais pas, je crois que ça se passe en Alsace.
Ah.
Et
on fera une recherche.
On fera des recherches.
La prochaine fois, je raconterai l'histoire, je demanderai à maman de la raconter. Elle m'écoute d'ailleurs, parce que maintenant, la TPS, donc des Sables d'Olonne. Maman, je te dis bonsoir. Et j'aurais bien voulu que tu racontes l'histoire des haricots, je suis désolé. Elle peut téléphoner. Tu peux téléphoner et envoyer un fax.
Alors, merci à Valentine de Gannet. Et elle pourra venir à la fête du livre signer son livre, n'est-ce pas? Elle est invitée. Et puis, je donne rendez-vous au mois d'octobre, je ne sais pas quelle date, aux auditeurs, avec un autre invité prestigieux.
Merci.
Bonsoir.
Merci, Cécilia. Bonsoir. Merci d'être venue de votre lointaine province.
Un plaisir.
Une autre chose qui est venue de sa lointaine province, c'est le Libre Journal, qui vient de paraître, mon cher Patrick, grâce à vous, d'ailleurs, en grande partie.
Effectivement, j'ai eu le redoutable honneur de le boucler, comme nous disons dans notre jargon, tout seul à l'imprimerie, mais enfin... Vous n'étiez pas très loin, nous étions en liaison téléphonique et Dieu merci, tous les articles sont parvenus par Internet, par le courrier, par différents moyens. Et je pense que ça fait un numéro de rentrée, un numéro 300 du Libre Journal imprimé, qui est d'une... qui est d'une qualité certaine. Alors bon, comme d'habitude, je ne vais pas... m'y attarder indéfiniment, mais je vais quand même proposer à nos éditeurs, à nos éditeurs. Voilà un lapsus qu'il est bon. Au secours, docteur Freud. Heureusement, j'ai un prêtre à côté de moi pour me protéger du charlatan viennois que j'ai l'imprudence d'appeler moi-même. Je vais proposer donc à nos auditeurs et à nos éditeurs également, pourquoi pas, le sommaire de ce numéro 300. Bon, on se souvient du slogan de Jalon, verglas assassin.
Mitterrand
complice. Alors évidemment, nous commençons le grand article de trois pages, les dernières nouvelles du Marigo. Le thème, c'est canicule assassine, Chirac complice. Et c'est vous, Serge, en association avec notre ami Nicolas Bonal, qui montrait ce qu'il y a, ce qu'il faut prendre au sérieux, et ce qu'il y a de risible et ce qu'il y a de très sérieux dans ce slogan « Canicule assassine, chat complice », mais vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, nous faisons un effort considérable, je trouve, compte tenu de l'espace dont nous disposons et de notre position politique. Je pense que c'est assez remarquable que nous consacrions une page entière à la promotion de la fête de l'humanité.
Oui.
Mais actualité oblige. Bon, tout le monde sait que ce seront les 12, 13 et 14 septembre prochain. Donc, nous consacrons une page entière à la promotion de cette fête. Mais Serge, rassurez-vous, si nous avons produit un effort exceptionnel, nous ne sommes pas les seuls. Dans le programme de la fête de l'humanité que je me suis procuré, j'ai relevé plusieurs pages, pleines pages couleurs, donc très coûteuses, qui sont achetées par d'autres institutions que le Libre Journal, comme RTL, EDF-GDF, Dassault Aviation, la RATP, Témoignage Chrétien, vous serez sensible à cette action-là, TF1, Renault et... le groupe Lagardère, qui est un trust considérable, qui inclut Hachette, qui est lui-même le deuxième ou le troisième éditeur mondial. Voilà. Donc je trouve que c'est tout à fait remarquable et tout à fait rassurant du point de vue du consensus national que des communistes, des révolutionnaires comme les éditeurs de l'Humanité et le Parti communiste français puissent trouver un soutien financier aussi massif, non seulement du Libre Journal, mais de grandes industries, de grandes institutions comme Gaz de France, la RATP, Dassault Aviation, des marchands de canons. Ça prouve que, bon, peut-être qu'ils sont plus aussi menaçants qu'ils l'ont été. C'est l'occasion pour certains de nos auditeurs qui se sont restés attachés à des schémas de la guerre froide ou même des années 20, l'homme au couteau entre les dents, de voir que, bon, ça s'est arrangé.
Et en plus, comme Quentin ne chantera pas... Noir Désir, qui était prévu pour la fête, est retenu par d'autres manifestations, je ne sais pas bien où. Je crois qu'il a un gala en Lituanie ou à Vilnius, donc il ne pourra pas venir chanter à la fête de l'Humain. Les femmes peuvent aller assister au spectacle, n'ont pas trop grand-chose à craindre. Voilà. Voilà. Alors, donc, alors, donner l'adresse.
Je vais donner l'adresse. Donc, ceux qui veulent voir quel genre de publicité nous faisons à la fête de l'UMA et veulent le spécimen, en spécimen le numéro 300, se contentent d'envoyer un carnet de timbres. Ceux qui ont compris qu'il faut s'abonner pour un an, 3 numéros par mois, 3 numéros de 24 pages chaque mois pendant un an, envoient un chèque de 110 euros.
Sauf au mois d'août quand même.
Oui, il faut reconnaître qu'on a été très absent pendant le mois d'août. Donc, ces commandes sont à adresser à SDB, 4 places France Liszt, 75010 Paris. L'échantillon gratuit, c'est sur le site internet libre-journal.fr.fm.
Merci, mon cher Patrick, pour cette minute, longue minute de réclame. Monsieur Argouache, prêtre.
Je crois que vous allez dire monsieur l'abbé, parce que souvent vous le faites parce que vous me taquinez.
Vous m'avez dit qu'il ne fallait pas, alors j'ai pas envie de me fâcher avec.
Ah non, mais vous êtes retenu.
Tout le clergé. Comment allez-vous?
Oh ben c'est très très bien. Moi aussi j'ai souffert de la canicule.
J'ai remarqué que pendant.
J'ai perdu 7 kilos.
Oui.
Et je suis passé, si vous, j'ai traversé la.
J'ai perdu un os alors, carrément.
Ah oui, oui, non, mais tous mes os ont été frappés. Ah je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a beaucoup de malades qui m'écoutent. Mais on était à Randol en retraite de communauté, dans le béton, parce que vous savez que Randol, c'est quand même tout un abbaye qui est. Il y avait des éclairs secs. Mais c'était terrible, là, pendant 8 jours. Et c'est comme si on m'avait. Il a fait très chaud, il faisait.
Cet été, il a fait chaud.
Hein, oui. Non, mais à Randol spécialement, et dans le béton, Serge.
Bah, attendez, c'est bien fait pour eux. Quelle idée. Il y a des dizaines de monastères en France qui sont vides.
Mais oui, mais ils m'ont dit qu'ils ont accueilli parce qu'après, on devait aller à un rassemblement au puits de jeunes.
Pourquoi ils vont
C'était pas trop loin.
Pourquoi ils ont construit en béton? C'est curieux.
Bon, enfin, oui, c'est autre chose. Bon. C'était le désespoir du père Revé, je me souviens.
Exactement.
Qui a le goût du beau, etc. Mais on peut encore faire des arrangements. On pourrait faire quelque chose. Non, on pourrait habiller de pierre déjà. Donc, pour terminer, Serge, parce que je ne veux pas me raconter, j'avais mal partout, comme si j'avais pris des centaines de coups de bâton, parce que la chaleur, et je suis allé à Lourdes, je me suis plongé dans la piscine de Lourdes, je suis ressorti, je vous assure, il n'y avait plus rien.
Sans blague.
Ah oui, non, mais extraordinaire.
Ça marche, alors?
Ah oui. Peut-être dans l'eau glacée, mais l'eau de Lourdes, en plus. Non, il y avait une grâce.
Ça, c'est une révélation.
Ah non, mais c'est vrai, j'étais étonné quand je suis sorti. Parce que je suis rentré, j'étais comme si on m'avait frappé.
Ça commence à être connu, vous savez, les effets de l'eau de Lourdes.
Je suis sorti, il n'y avait plus rien, Serge. Et je crois qu'à Lourdes, il n'y a pas eu de mort. Tous ceux qui sont passés dans les piscines à ce moment-là, parce que c'était en plein mois d'août, en pleine canicule, tout le monde a été préservé grâce à l'eau de Lourdes. Oui.
Vous y croyez, vous, carrément?
Ah oui, mais j'y crois, mais j'ai tourné à l'autre tout petit.
Plutôt rassurant. Bon, j'arrête de vous taquiner. Alors, les enfants...
Alors, très belle rentrée. Oui, les examens. Les camps.
Les vacances,
beaucoup. Alors, les camps, vous savez qu'on n'a pas eu d'inspection de la jeunesse et des sports. Vous savez, grâce à qui?
Non.
Bah si, dites...
Non, je sais pas, dites-moi.
Mais grâce aux raveurs qui étaient à 7-8 kilomètres, au Fawet. Donc, BDRG sont venus sur nos pâtures pour savoir...
Pas pensé,
mais si, parce que les inspecteurs étaient très occupés. Et il faut dire aussi que l'année dernière, on a eu de très belles inspections, il y avait des très bons rapports, donc ils sont parvenus dans les mêmes lieux.
On peut pas décemment faire deux rapports favorables deux années de suite.
On a quand même coincé les renseignements généraux qui sont venus sur nos pâtures sans nous demander l'autorisation. Donc, on les a arrêtés, on est ce qu'ils faisaient là, etc. Donc, ils venaient voir... au cas où il y aurait eu
une rave partie
chez nous. Ça aurait été assez extraordinaire, parce qu'on aurait encore fait la une, les scouts de Riomont contre les raveurs, ça aurait été encore quelque chose de terrible. Bon. Enfin, alors, voilà, on a échappé
et donc,
à ça. La rentrée scolaire, c'est très bien faite. On a 38 garçons. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a une vocation religieuse qui vient d'arriver. Donc, on est maintenant 10. On est donc 4 prêtres et 6 frères, un religieux qui est arrivé, un postulant,
oui.
Et si Dieu veut, dans...
C'est un ancien de Riomont, non?
Non, c'est un chef scout qui nous a suivis. Et si Dieu veut, dans 2 ans et demi, 3 ans, on aura 2 ordinations, ce qui est très bien pour notre petite communauté qui
est
très sollicitée.
Vous êtes prêtre, c'est curieux, parce que c'est pas, en général, les supérieurs, enfin c'est vrai que vous n'êtes plus le supérieur, mais... en général, les créateurs ou les meneurs de, je sais pas comment on dit, d'instituts, de congrégations, ils n'aiment pas trop partager les fondateurs.
Les prieurs, les pères abbés, si, ouais. Ils aiment quand même. La messe est quand même, c'est quelque chose d'irremplaçable, vous le savez. Et donc, les grâces données par un prêtre qui dit la messe, c'est quand même exceptionnel.
Mais vous êtes 3 prêtres là, sur
4
prêtres sur 9.
Oui, sur 10.
sur 10 maintenant avec le postulant. Oui, oui. Et bientôt 6.
Il rentre à la fête de la Sainte-Croix, dimanche, il va rentrer dans le cœur. C'est une grande grâce pour nous.
C'est bien ça.
Oui, c'est bien parce qu'on a besoin de vocation.
Vous n'avez besoin de rien.
Religieuse et sacerdotale, Serge, si je viens. Vous savez, de toute façon.
Non, mais vous venez parce que vous aimez bien venir.
Non, non, ce que je voudrais dire, parce que c'est quand même dramatique. Et quand je viens, bon, il y a toujours un petit côté dramatique, hein, Serge, c'est vrai, il y a cette persécution, il y a le procès qui ne se déroule pas de cet enfant qui s'est tué chez nous, mais il y a toujours cette suspicion du pays contre Riomont, pensant que ce sont les méthodes pédagogiques qui ont tué cet enfant. Donc on espère, demain, on aura le résultat du procès qu'on fait à Charlie Hebdo. Et bon, j'espère beaucoup dans ce procès. Pourtant, j'étais pas pour un procès en diffamation, parce que vous savez que quand on n'est pas juif et musulman, quand on est catholique, on perd toujours. La griffe, on a fait les frais. Eh bien, nous pensons qu'il y aura un miracle, car la dernière fois, le procureur, le représentant du gouvernement, a pris parti pour nous en disant que tous les dogmes catholiques ont été violés dans ce journal. Je vous cite simplement une caricature. Donc, on voit un moine qui tire un enfant pendu. On voit un enfant crucifié sur son lit. Bon, tous les auditeurs savent combien on est en butte à la contradiction, mais c'est un signe que nous sommes témoins du Christ. Nous continuerons, mais nous représentons pas seulement le village d'enfants de Riomont, mais aussi tous les enfants de France qui sont aussi persécutés. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on a plus d'argent. Bon, bien sûr, on a fait un effort gigantesque pour l'Église. On a fait un effort gigantesque pour le village breton. Puis je remercie tous les donateurs, parce que même cet été, on a pu travailler au village breton. Mais Notre-Dame de Riomont n'a plus rien pour la rentrée. On est en cessation de paiement. Je vous donne un chiffre. Pour vraiment démarrer l'année, il nous faudrait 150 000 francs. Bon, je sais que beaucoup donnent, et vraiment avec bon cœur, et selon les moyens. Et certains m'écoutent. Ils entendent ma voix, et je suis très surpris d'ailleurs, parce que j'ai quelquefois des lettres ou des témoignages, et je pense à ces bienfaiteurs qui se sont jamais déclarés amis de Riomont, mais qui nous aiment à travers ce que je peux leur dire, à travers quelquefois des écrits ou des journées, et je voudrais toucher leur cœur ce soir pour leur dire: vous n'avez jamais donné au village d'enfants de Riomont. Je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Christ, donnez faites un don, même aussi petit soit-il, parce que, vous le savez, les petits ruisseaux font les grandes rivières font les grands fleuves se jettent dans la mer. Je suis persuadé qu'on va s'en sortir, mais vous savez, beaucoup de nos bienfaiteurs disent « Riomont s'en sort toujours ». C'est ça qui est terrible. Or, personne ne bouge en se disant « Riomont s'en sort toujours ». Bon, pour le village breton, Serge, si je l'ai acheté, vous savez que c'est grâce à cette émission et grâce au commandant Guillaume, dont je salue la mémoire. On a acheté ce village breton. Je suis arrivé ici, on n'avait pas un sou, on a acheté ce village breton. L'église est démarrée, on a fait les fondations des clochers et de la façade. On va bientôt attaquer les pierres avec des maçons. Et puis, voilà, on met tout ça en veilleuse pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est que Riomont vive et puis qu'on puisse élever ses enfants. Donc, voilà, c'est mon appel de ce soir. Je vous en supplie, vous qui m'écoutez, Riomont, c'est vraiment très important. J'ai connu le père Revet travailler, je l'ai connu la nuit travailler, soulever des bordures de trottoir dans la boue pour des pauvres gosses. Dernièrement, on a
expliquer pourquoi vous soulevez des bordures de trottoir.
Parce qu'on a tout fait par nous-mêmes. C'est un champ de bataille
pour construire
Riomont
avec des bordures de trottoir.
Et on a un ancien qui est arrivé, qui s'appelle Michel Goudal, qui est arrivé avant-hier. Ça faisait 10 ans que je l'avais pas vu. C'est un garçon de Riomont qui a écrit un magnifique ouvrage sur l'Alaska. Il a passé 25 ans chez les Esquimaux. Tout ce qu'il a fait, c'est grâce à l'éducation de Riomont et grâce au père Revet. Il a fondé deux musées, dont le musée de l'Arctique dans les Pyrénées. C'est un type sensationnel. Et quand il est venu me voir il y a 10 ans, il m'avait demandé 3 objets. Il dit: mon père, je vais repartir, je m'occupe des Esquimaux, je lui demande 3 objets. Il a demandé une culotte tyrolienne, symbole de Riomont, vous qui connaissez Riomont. Et puis, il a demandé un sac à dos.
Pour les Esquimaux, une culotte tyrolienne, c'est pas très chaud.
Non, mais ça, c'est pour son musée de l'Arctique. Et puis, il a demandé un sac à dos, et donc avec la peau de bête, un sac à dos. Et puis, il a demandé en troisième une tente. Enfin bref, et un chapeau scout. Voilà, chapeau scout. Mais c'est tout ça pour dire
c'est
que
comme les mousquetaires,
c'est tout le symbole de la route et de l'aventure. Et Michel Goudal, qui est connu, qui était un des grands invités de la télévision, malheureusement, il a refusé de passer une grande émission de télévision. Il m'a dit pourquoi ? Parce qu'on voulait l'obliger à s'habiller en esquimau. Et il a dit non, je ne m'habillerai pas en esquimau, je veux bien parler des esquimaux. Et quand il est arrivé à l'émission, on lui avait préparé un costume, il a dit non, je me déguiserai pas, je ne ferai pas le clown, etc. Et c'est comme ça qu'il n'a pas fait une très grande émission sur les esquimaux. Bon, je salue Michel Goudal, qui est un ancien de Rayomont, mais il y en a des centaines. Et pour dire simplement que ça vaut le coup de continuer. Et il nous a dit, si Rayomont n'avait pas existé, je serais sûrement pas vivant. C'est Rayomont qui m'a donné la soif de vivre après toutes ces épreuves dramatiques de sa petite enfance. Je parle d'abondance du cœur, mais j'ai trop parlé.
Dès que vous aurez donné l'adresse à laquelle il faut... Alors, c'est pas compliqué, il faut 150 000 francs, c'est-à-dire
Ça fait 15 millions anciens,
en euros.
Serge.
Oui, non, mais il faut surtout pas...
En euros.
En euros, ça fait quoi? Je sais pas, ça fait 150, ça fait 200... 2250 euros, c'est ça à peu près, 2300 euros, oui, ça doit être ça à peu près. Donc 2300 euros, pas 23 000 euros,
20, je sais pas, Serge.
Oui, 23 000.
Ils traduiront, ils donneront ce qu'ils pourront.
Envoyez le maximum.
Donc, 23 000 personnes qui envoient 1 euro,
oui.
2300 personnes qui envoient 10 euros,
voilà.
230 personnes qui envoient 100 euros. 100 euros, c'est quand même pas la mer à boire. C'est le prix d'un abonnement au Libre-Journal. Donc,
faites
deux chèques. Ouais. Un chèque de 110 euros pour vous abonner au Libre-Journal et un chèque de 100 euros pour le Père Argouache.
Voilà. Et l'adresse...
si vous n'avez qu'un chèque, c'est pour le Père Argouache, tant pis. Bon. Quand il sera
c'est pas
riche,
pour moi, c'est pour la maison d'enfants. Voilà.
Ouais.
Pour qu'on puisse continuer à s'occuper des enfants de France.
Où est-ce qu'on envoie ça déjà?
Quel
village?
Quel ordre?
Alors l'ordre, c'est Association Notre-Dame de Rayomont, RIAUMONT, BP 28, 62 801, Liévin, LIEVIN, CEDEX. C'est dans le Pas-de-Calais, c'est près de Lens.
Play it again.
Oui.
Redites-le.
Alors, village d'enfants de Rayomont, BP 28, 62 801, Liévin, CEDEX, et c'est le père Argouache, Argoire en breton, qui vous parle encore et qui essaie de toucher votre cœur. Mais je vous assure que cette fois-ci, il faut se remuer et il faut nous donner un petit peu pour que Rayomont puisse continuer à vivre. Pour que France et chrétienté continuent. Merci.
Est-ce que le mécréant peut émettre un vœu pour Rayomont? Moi, mon vœu.
Un vœu pieux pour un mécréant.
Un vœu pieux, oui. Moi, mon vœu, c'est que le diable porte Pierre, et c'est le cas de le dire, puisque j'espère que Charlie Hebdo, les anarchistes institutionnels, qui ont accès sans arrêt à la radio publique, qui ont accès à des tas de contrats publicitaires, qui ne manquent pas d'argent, j'espère qu'ils vont être condamnés à en prélever un petit peu pour réparer le tort qu'ils vous ont fait. J'espère qu'ils vont être condamnés à des dommages et intérêts.
Un ex-voto dans l'équipe de Charlie Hebdo.
Non, mais c'est vrai que quand on est au tribunal et qu'on voit l'avocat de Charlie Hebdo qui dit « Monsieur Argouache qui a fait ceci, Monsieur Argouache qui a fait cela, Monsieur Argouache qui parle avec Serge de Beketch », c'est sorti, bien sûr. Et alors, bon, mais c'est vrai que...
Moi, je m'en étouffe.
C'est Serge, mais c'est terrible. Et en même temps, la dernière fois, on a le représentant du gouvernement qui, pour la première fois, est intervenu. Généralement, il intervient pour des questions de procédure et a dit « Oui, c'est vrai ». Tous les dogmes catholiques ont été violés et je vais vous le prouver. Et alors, c'est un changement de ton et les magistrats qui étaient là n'en revenaient pas. Et j'ai demandé la parole à la fin, la dernière fois, j'ai demandé une minute, j'ai parlé 30 secondes. Et j'ai simplement dit, puisqu'on m'accuse d'être raciste, que j'ai reçu 70 ou 72 nationalités à Rayomont, pour leur donner le patrimoine de la France, l'esprit catholique, l'identité française. Et on a fait des centaines et des centaines de baptêmes. Et j'ai dit aussi, je ne suis pas extrémiste, je suis catholique. Merci, Monsieur le Président, j'ai terminé. J'espère que demain, on aura une bonne nouvelle. Merci de m'avoir écouté.
Alors, les haricots.
Oui.
Quoi?
Les haricots.
Des haricots.
Avec un H aspiré.
C'est pour montrer que j'aspire. Non, mais on dit les haricots. On ne dit pas les haricots. Moi, je dis les haricots. Ah, on sait, alors voilà l'histoire. On sait que la Révolution française, envoyée par un auditeur de 89, n'a pas fait le bonheur de toutes les couches de la société de l'époque. Oui. Ainsi, un de nos fidèles lecteurs, M. Debusson, évoque-t-il une histoire pour le moins curieuse qu'on raconte aujourd'hui dans la région. La Révolution battait son plein, le curé d'un petit village d'Alsace était inquiet, les brigands de la République fonçaient sur la paroisse. Où vais-je cacher le Saint-Sacrement ? Demanda-t-il à une de ses paroissiennes. Amenez-le chez moi, j'ai un jardin un peu en retrait du village, on le cachera dans mes haricots à rames, ils n'iront pas le chercher là. Ainsi fut fait. Qu'est-il arrivé à ce village ? Peut-être rien, mais il risquait gros en représailles. Surprise, en automne, quand cette brave paysanne ramassa ses semences de haricots, les grains qui avant étaient blancs, les voilà tous marqués de brun au centre. Aussitôt, elle en prit une poignée qu'elle alla montrer à son curé. De bonne foi, celui-ci reconnut aussitôt le miracle. Une hostie minuscule enchâssée dans un encensoir brun et lui déclara « C'est une récompense de votre bonne foi à votre courage face au danger, car si cela avait été découvert, vous étiez fusillé et moi aussi, votre maison brûlée et peut-être tout le village. » Voilà l'histoire des haricots du Saint-Sacrement. Merci, mon père. À bientôt à Riomont.
Et un auditeur qui s'est compté ou qui a une calculette nous dit que ce n'est pas 2300 euros dont a besoin le père Argouache, mais 23 000.
J'avais corrigé, j'avais dit 23 000. Donc 230 personnes qui envoient 100 euros et ça fait la rue Michel. Monsieur Froilla, bonsoir.
Bonsoir,
si vous parlez pas dans le micro, on ne vous entendra pas.
Ouais.
Et on ne pourra pas reconnaître votre voix qu'on a entendue il y a maintenant 5 ou 6 ans.
Oui.
Vous étiez venu nous présenter votre engin qui s'appelle comment ? Comment l'aviez-vous appelé ?
Le spécial Lombert.
Le spécial Lombert de Froilla.
Oui.
Et alors, à l'époque, beaucoup d'auditeurs étaient allés vous voir, avaient essayé cette machine, avaient trouvé que c'était intéressant parce que c'est une machine qui permet de remuscler le dos en quelque sorte, de remettre le dos en ligne, de corriger les douleurs du dos.
Absolument.
Et tout le monde attendait.
Par l'élongation en douceur.
Voilà. Mais... Alors, je vous demanderai après la technique de résumer le mode de fonctionnement rapidement. Mais tout le monde attendait depuis, enfin beaucoup de gens attendaient, le moment où enfin cet appareil serait disponible. Et il a été étudié par une société dont la directrice, la présidente directrice générale, Madame Delaneffe, est présente avec nous, qui s'appelle... Votre société s'appelle comment ?
Alors, la société s'appelle Holist.
Holist.
Elle a été créée il y a une quinzaine d'années pour développer un appareil d'oxygénation.
Le
fameux Bolder Jacquier. Et lorsque j'ai rencontré M. Froilla, il a dit « Mais c'est formidable ce que vous faites. » Et il y a une grande synergie avec ce que moi je fais.
Donc, je ne sais pas s'il a dit synergie. Ça fait, à mon avis, ce n'est pas dans son... vous avez dit synergie, M. Froilla ?
Si. Ah bon. Si, il a dit synergie, complémentarité peut-être. Ah. Et j'ai trouvé également qu'il y avait quelque chose de formidable dans son invention. Je m'y suis intéressée, j'ai essayé sur moi-même et petit à petit j'ai été convaincue de l'intérêt de me lancer dans l'industrialisation de ce procédé.
Ah, j'ai assisté à ça de loin parce que je téléphonais à M. Froilla régulièrement et c'est un véritable travail, mais c'est comme de lancer une voiture ou pratiquement un avion. Enfin, il faut des années et des années d'études,
c'est
de
assez
travaux.
Long.
De...
Ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille sur la spéciale Lombert, enfin la machine qui sert à améliorer ou à renforcer le dos. Et c'est un travail énorme. Et effectivement, on a eu l'aide de l'ANVAR pour faire ça.
Ah oui. Alors, monsieur Froilla, comment ça marche ? Comme dit le gars de la télévision, là, comment ça marche ?
Comment ça marche ? Ce n'est pas un effort que l'on fait. On résiste à un effort. Par exemple, la motorisation de la machine tourne à 6-8 tours minute. On a les pieds sanglés sur les manivelles, qui sont en symétrique. Et quand il y a l'étirement,
on résiste.
Alors, il faut expliquer. On est allongé sur le dos, comme, oui. un peu comme sur une table de une table d'intervention médicale, enfin.
Oui, sur un petit.
Sur un chariot mobile.
Un petit chariot mobile. Plutôt comme une machine à ramer, on pourrait dire. Hein.
Peut-être.
Donc, oui.
Et à un bout de la machine, il y a donc un pédalier à moteur qui fait tourner des pédales qui, contrairement aux pédales sur les vélos, ne sont pas alternées, mais sont
symétriques.
Elles sont dans la même position. On pose les pieds sanglés sur ces pédales. Le moteur tourne doucement, vous nous avez dit, à 6 à 8 tours minutes. Et le jeu, c'est de résister avec les jambes et avec son dos, en réalité, à la poussée qui est exercée par les pédales.
Non, l'emballage du moteur, il veut vous emmener, vous ne résistez pas à une poussée.
On retient donc.
Vous résistez à un étirement, vous retenez, il y a des poignées sur le côté, on retient le chariot, et on y met la force, la résistance que l'on veut.
Voilà, d'accord.
Donc c'est à la portée de tout le monde.
Ouais.
Quelqu'un qui peut résister à 100 kilos recevra 100 kilos de tirage, quelqu'un qui peut résister à 10 kilos recevra 10 kilos de tirage.
Et quand il ne peut plus résister, il se relâche, et le moteur fait un tour, et puis ainsi de suite.
Tranquillement.
Alors, sans problème. Cette machine, vous l'aviez conçue parce que vous êtes un ancien cycliste, je crois me rappeler que vous avez fabricant de cycles, c'est ça. Et moi, j'ai vu le prototype, enfin, j'ai vu des prototypes quand je suis allé chez vous, c'était un peu, quand même, la locomotive ou le fardier de Cuneau. Hein. alors maintenant, donc vous, madame Delanef, vous avez, avec les ingénieurs de la maison, j'imagine, vous avez retravaillé à la fois...
On a retravaillé à la fois la technique et le design. Mm-hmm. C'est maintenant une machine un peu sophistiquée. Qui va s'adresser dans un premier temps aux professionnels, aux kinésithérapeutes, aux centres de rééducation, aux centres de remise en forme. Et on va inviter le public à aller faire des séances chez ces professionnels, sachant que une seule séance donne un résultat perceptible immédiatement. Mmh. Hein. Et puis, dans un deuxième temps, nous orienterons vers un appareil de type familial, qui pourra être dans les familles. Mais bon, ce sera toujours un appareil qui aura un certain encombrement, un certain volume, un certain encombrement et un certain prix. Vous avez vu que c'est quand même un outillage complexe, il y a de la mécanique,
et puis
il y a un moteur.
Il y a un poids qui est obligatoire, parce que on ne peut pas se permettre de faire ce genre d'exercice sur un lit de camp. Il faut que ça soit solide, il faut que ça soit du tube épais et lourd, pour résister tout simplement aux pressions et aux forces qui s'exercent.
Hein. Il y a un pédalier qui est motorisé, tout ça c'est du matériel lourd.
Alors, on n'est plus au niveau du prototype. Là, ça y est, on n'est plus au stade du prototype, pardon. Vous êtes entré dans la fabrication.
Voilà.
De série.
Oui. La machine sera présentée cette fin de semaine en Italie, dans un salon, un congrès, et sera présentée ici à Paris début octobre, 4 et 5 octobre, je crois. Au Salon Mondial de la Kinésithérapie.
Bien. Donc, vous pensez que les premiers appareils seront distribués quand en France ?
Ben, le mois prochain.
Le mois prochain. Et donc, vous avez déjà des contacts avec des kinés qui ont...
On a déjà énormément de contacts. Mm-hmm. Pour mettre en place cette nouvelle machine, on a rassemblé quelques scientifiques et on a fait un petit groupe de travail avec médecins, kinésithérapeutes, biomécaniciens de l'INSERM et
ostéopathes,
tout à fait. Et ce petit groupe a travaillé avec Jean Frolla. Jean Frolla était à chaque rencontre parce que son expérience était absolument indispensable et primordiale. Donc, on a travaillé à l'explication. Pourquoi de tels résultats ? Il y a des résultats sur tous les problèmes lombaires, tous les problèmes de douleur dorsale, mais il y a aussi des résultats dans l'incontinence urinaire, par exemple.
Oui, ça, je me souviens que M. Frelin nous avait expliqué ça. C'était assez surprenant, en fait.
On est en train de se dire, est-ce que ce ne serait pas la machine du ventre qui fait du bien au dos?
Oui.
Parce que, effectivement, quand on fait ce travail de résistance à l'étirement, on fait un énorme travail au niveau des abdominaux et de la ceinture pelvienne.
Mmh.
Et ce travail permettrait de libérer les muscles qui sont en contraction permanente, les muscles du dos qui sont en contraction permanente et qui créent les douleurs lombaires.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure, enfin, on a évoqué rapidement le Bolder Jackie. Alors, j'aimerais que vous nous disiez de quoi il s'agit, parce que beaucoup de gens le connaissent, mais également beaucoup d'auditeurs ne doivent pas savoir ce que c'est.
Alors, le Bolder Jackie, c'est tout à fait autre chose. C'est une méthode d'oxygénation. Qui permet non pas d'inhaler de l'oxygène, mais un produit qui va se comporter comme un catalyseur, c'est-à-dire qui va favoriser l'assimilation de l'oxygène que l'on respire normalement.
Mais ça marche, c'est-à-dire on respire donc comme dans un...
C'est une petite machine, oui. Une sorte de petit laboratoire portatif, dans lequel on met une huile essentielle très spécifique qui est issue de la résine de pin.
Oui.
On met uniquement ce produit-là, qui est un produit spécifique pour cette méthode. Et on va en extraire une certaine partie par barbotage. Il y a des flacons, il y a de l'air qui passe dans des flacons. Ensuite, cet air chargé en alpha-pinène, c'est le produit concerné, va passer dans un dispositif pour être peroxydé. Donc une fois que ces produits sont transformés, ils sont inhalés. Ils sont inhalés au moment où ils sont fabriqués, au moment où ils sont très actifs. Quelques instants après, ils ne le seraient plus.
Voilà, c'est une espèce d'oxydation immédiate qui se produit sans doute.
Et donc ces produits vont permettre de faire une peroxyhémoglobine, ils vont s'associer à l'hémoglobine de façon très instable, et vont permettre de faire une peroxyhémoglobine plus instable.
C'est-à-dire une hyperoxygénation de l'hémoglobine, c'est ça?
On va pas dire une hyperoxygénation, on va dire on va faire un super transporteur de l'oxygène.
Mmh.
L'hémoglobine, c'est le transporteur de l'oxygène, et le Bolder permet de faire un super transporteur en s'associant avec l'hémoglobine.
D'accord. Donc en fait, vous êtes la société Holiste, c'est fait une spécialité de
la société Holiste a été créée pour
le Bolder,
pour développer cette méthode-là, qui est remarquable, qui donne d'excellents résultats, qui est un traitement de terrain. C'est pas un traitement spécifique d'une maladie en particulier, mais le fait que vous amélioriez l'oxygénation générale de l'organisme va avoir des répercussions dans tout un tas de domaines.
Alors, si des auditeurs sont intéressés soit par le Bolder Jackie, soit par le spécial lombaire Frelin, il faut qu'ils s'adressent
chez
Holiste. Alors, je vais vous demander de donner l'adresse de votre société.
Alors, la société...
Étant entendu qu'en ce qui concerne l'appareil de M. Frelin, c'est pour l'instant un appareil qui, par son importance et par son prix, est réservé à des professionnels, c'est-à-dire à des kinés essentiellement.
C'est-à-dire que Holiste pourra fournir... l'adresse des professionnels
et voilà, j'allais vous poser la question, c'est ça. Donc si des auditeurs vous téléphonent en disant je cherche un kiné qui dispose de ce matériel,
voilà,
vous pourrez le renseigner.
Ce sera notre rôle.
D'accord.
Tout à fait.
Et informer. Je peux ajouter un mot sur ce Bolder Jackie?
Oui, monsieur.
Regardez-moi.
Mais vous êtes magnifique, j'ai toujours pensé que vous étiez un des plus beaux hommes.
J'ai opéré d'un cancer du poumon le 25 juin.
Bah écoutez...
C'était un vieux truc que je traînais depuis longtemps, parce que quand je travaillais dans la fabrication des cycles,
puis je crois que certainement vous aviez un peu le tabac, non ?
Je veux un petit peu le tabac, mais la soudure, qu'on appelle la brasure au cuivre, l'oxyde de cuivre, terrible, il y avait des soirs où on tombait dans les pommes.
Oui, bien sûr.
Saoulé par l'oxyde de cuivre, eh ben ça faisait de la...
Mais ça, c'était une excuse pour Mme Frelin, mais en réalité... Bon, enfin, bref, on garde ça entre nous.
Ouais, je peux dire ça, alors.
Je suis bien content en tout cas de vous retrouver parce que vous êtes en pleine forme effectivement pour un homme qui a subi ces problèmes et
le bol d'air Jacques, vous êtes la démonstration
vivante.
Ah oui.
Alors donc une adresse, un numéro de téléphone, oui. Madame Delaneige, s'il vous plaît.
Alors Aulis, le port comme un port d'attache. Le port.
Aulis, c'est
Aulis, HOLISTE. Le port, 71-110.
Et le port,
comme un port, un port d'attache.
Le port, comme un port de pêche.
Le port.
Un port de pêche. Un port d'attache. 71-110, Arte, A-R-T-A-I-X. C'est un petit village au bord de la Loire. Voilà, on est là.
Voilà, et il y a un téléphone ?
03-85-25-29-27. À propos de la machine de Jean Frelat, on fera aussi des présentations et des séminaires, hein, des séminaires de formation même pour les professionnels.
Donc on peut effectivement téléphoner pour se renseigner sur les séminaires de formation que vous organisez. Et puis je suppose que vous serez dans vous présenterez la machine dans un salon parisien, un
des salons mondial de la kinésithérapie bientôt.
Merci beaucoup Madame Delaneige, merci Monsieur Frelat. Alors continuez à rétropédaler et à Bolder Jacquier au maximum.
Ah oui alors.
Merci. Bien.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
On passe à quelque chose de différent encore, qu'il s'agit de santé toujours, de santé du cerveau. On peut dire ça, oui. Oh, Monsieur Couvrat.
Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes psychologue, mais vous êtes un psychologue d'un genre particulier parce que vous pratiquez. Alors, j'avais réservé la surprise aux auditeurs. Vous avez, on peut dire, pratiquement inventé inventé. Ce que vous avez appelé l'astropsychologie.
L'astropsychologie, non, je ne suis pas l'inventeur. Hein. Enfin, moi, j'aime bien citer un terme qui est « je suis un nain assis sur les épaules de géants ».
Voilà.
On ne réinvente rien, on ne fait que reformuler, adapter à notre époque, simplement des choses qui sont là.
Alors, ce que vous proposez est intéressant, c'est nouveau, ça donne matière à réflexion. On peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet. Au moins, avant de savoir si on est d'accord, il vaut mieux s'informer sur la réalité et sur ce que vous avez à dire de ces choses-là. Mais il y a eu un petit malentendu entre nous, c'est que je vous avais invité et on n'a pas dit combien de temps on en parlerait. Et puis, on parlerait de ce sujet. Et puis, finalement, je m'aperçois que c'est un sujet qui nécessite d'être développé pour être compris clairement et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc, ce que je vous propose, c'est de donner à nos auditeurs tout de suite la possibilité de vous voir et de vous entendre, puisque vous allez participer à un séminaire dont on va donner l'adresse et la date. Et puis, ensuite, vous donnerez les grandes lignes de votre pratique. Je ne sais pas s'il faut dire technique, art, disons pratique, oui. Et puis, vous reviendrez dans quelques temps. Et là, on développera, on travaillera un peu plus à fond. Et même éventuellement, on essaiera d'organiser une confrontation aimable avec des personnes intéressées et qualifiées. Vous êtes d'accord pour qu'on fasse comme ça ?
Tout à fait.
Donc, là, c'est un séminaire au cours duquel on pourra vous rencontrer, qui se passe, alors, au Forum 104, ça tombe bien, rue de Vaugirard,
oui.
75-015, donc c'est à Paris. Ça se passe le vendredi 12 septembre, autrement dit,
vendredi qui
après-demain,
absolument,
à 18h30. Les frais d'entrée sont de 7,50 €. Et puis, alors, je vois quelque chose qui est dimanche 14 octobre de 9h30 à 19h, mais j'imagine que c'est pour les professionnels.
C'est le séminaire en question.
C'est le séminaire en question.
Je l'annonce le vendredi.
Voilà.
Et donc, je développe le dimanche.
Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astropsychologie? Est-ce que vous pouvez le résumer
j'aime bien les défis, hein. Ça fait 20 minutes, ça va être juste quand même pour dire quels sont les rapports qui existent entre l'astrologie et la psychologie. Bon, je crois qu'on vit dans un univers de bulles. On est dans un univers de spécialistes et les disciplines ne correspondent que très difficilement. J'ai eu envie de créer des relations où elles n'apparaissent pas apparemment. Et à la suite d'un séminaire que j'ai suivi avec un Américain qui s'appelle Jack Jarre il y a quelques années sur l'astrologie événementielle, je me suis aperçu qu'il y avait de nombreuses corrélations entre la psychologie et l'astrologie. Cet Américain était astrologue, mais pas psychologue. Donc, comme bon, j'aime beaucoup la recherche, j'ai découvert qu'il y avait des rapports très étroits. J'irais même par dire qu'on peut aujourd'hui permuter l'astrologie et la psychologie. Mais pas n'importe quelle psychologie, c'est-à-dire que la psychologie, vous en avez différentes. Vous avez l'école freudienne, vous avez l'école de Palo Alto, l'école jungienne, bon je détaille pas parce que ça prendrait beaucoup de temps, celle à laquelle je me réfère est l'école humaniste de Palo Alto en Californie. Alors en deux mots, si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, c'est l'école d'Eric Berne qui a créé l'analyse transactionnelle, l'analyse des relations. C'est l'école de Maslow qui a déterminé les pyramides des besoins. C'est l'école des attitudes de Porter qui définit des attitudes. Bon, ce qui m'intéresse beaucoup dans leur approche, c'est qu'ils sont très pragmatiques. Très pragmatiques et que le cadre conceptuel qu'ils ont élaboré peut être lu clairement par tout le monde. Bon, quant à l'appliquer, ça c'est une autre paire de manches. Hein. Je connais pas quelque chose qui soit à la fois facile à comprendre et facile à appliquer, en même temps qu'efficace. Ça n'existe pas. Alors, simplement pour dire quel est le rapport qu'il y a entre ce type d'astrologie, de psychologie humaniste et l'astrologie, c'est que pour l'astrologie, ce que je mets en parallèle avec la psychologie de Palo Alto, c'est l'astrologie humaniste. C'est une astrologie qui est axée sur la personne et qui analyse les phases dans les cycles. Elle n'est absolument pas événementielle.
Mais elle suppose que l'outil d'entrée enfin l'outil d'accès, c'est l'heure de naissance et le lieu de naissance. Ça reste tout à fait. Comme tous les autres astrologues.
Tout à fait. On se base.
Alors quand vous dites que c'est pas événementiel, c'est évidemment pas une astrologie charlatanesque qui permet de dire après-demain vous allez rencontrer un grand blond avec une chaussure noire. C'est pas ça.
Bien entendu.
Il y a une autre astrologie qui est une astrologie mondialiste qui recherche dans les configurations astrales du passé des configurations qui ressemblent aux configurations actuelles et qui étudie et donc qui suppose que les événements qui se sont passés naguère jadis et même avant sous ces configurations actuelles astrales, quand les mêmes configurations astrales se retrouvent aujourd'hui, vont se reproduire d'une façon ressemblante ou approchée. Ça, c'est encore autre chose. C'est un énorme boulot.
Si vous le permettez, là, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait une connaissance approfondie des événements de l'histoire depuis 26 500 ans.
Il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis très longtemps et qu'il faut le problème, c'est que, évidemment, il faudrait avoir une connaissance très approfondie d'abord des ciels. Ce qui est pas évident, et ensuite des événements historiques. Bon, mais alors vous proposez, vous évoquez un troisième aspect de l'astrologie qui est ni événementielle ni mondialiste, mais qui est une astrologie du caractère, non, ou des comportements.
Du comportement et qui est une astrologie d'accompagnement psychologique. C'est pour ça.
Est-ce que ça veut dire que,
oui,
en fonction du signe de quelqu'un ou de son ascendant ou enfin des outils qu'utilisent habituellement les astrologues, votre diagnostic de psychologue et votre recommandation va être modifiée?
On va modifier les paramètres des sept états du moi que constitue l'analyse transactionnelle. Quel côté structurel de l'analyse transactionnelle?
Qu'est-ce que c'est que ces sept états du moi?
Eh bien, c'est comment s'est construit de la naissance jusqu'à aujourd'hui.
Mais pourquoi sept états?
Parce qu'on a défini dans l'analyse transactionnelle qu'il y avait sept états. Donc trois états du moi principaux que sont le parent, l'adulte et l'enfant. Il y a deux parents. Le père et la mère, hein, comme dans la vie,
ou pas.
Il y a effectivement des phénomènes d'exclusion, mais là, ça m'obligerait à entrer dans des points techniques très précis. Il y a quatre enfants. Il y a l'enfant naturel, Hein, quand on dit on est spontané dans la vie, bon, on peut être spontané à 60 ans. Et en fait, c'est quoi? C'est cette partie du moi qui émerge et qui prend le devant de la scène. On a un enfant adapté soumis, un enfant adapté rebelle et un petit inventeur. Bon, ce sont des termes qui sont techniques. Est-ce que j'ai le temps de les expliciter?
Au moins un ou deux pour donner une direction.
Alors, le petit inventeur, bon, en fait, on reçoit de nos parents la transmission de notre culture, des usages, des codes et des lois, de la façon de se comporter en société dans une culture donnée. Bon, ça s'inscrit dans l'enfant, c'est-à-dire l'enfant pratique en copiant. Il n'est pas vraiment intelligent, il copie. Une petite fille va reproduire la voix de sa mère. C'est l'éducation, simplement. Bon. Et à un moment donné, vers 2-3 ans, l'enfant a besoin de découvrir par lui-même. Donc il va explorer le monde et il va effectivement mettre la main sur la plaque chauffante. Il va renverser une bouillotte, mais là il saura que, effectivement, c'est chaud. Si sa mère lui avait dit, il l'aurait jamais su. Hein?
Alors, je comprends, ça je comprends, mais ce que je comprends pas pour l'instant, c'est la nécessité de faire intervenir l'astrologie là-dedans, parce que ça c'est une chose. Bon, on vous appelait ça les sept états du moi dans la psychologie transactionnelle, mais en fait, bon, c'est la base même de l'éducation.
Tout à fait, on sait
bien qu'un enfant, il a deux parents, et qu'un enfant est rebelle ou il est sage,
voilà.
Obéissant, mou, dur. Bon, donc ça, il y a un habillage, je dirais, scientifique sur des connaissances qui sont connaissances naturelles de tous les parents. Mais alors, la nécessité de l'astrologie.
Alors, pas la nécessité, mais le fait qu'il y a un rapport étroit entre ces sept états du moi et les sept planètes que nous connaissons. En fait, il y en a 10, mais on en connaît 7 qui sont vraiment opérationnels et qu'on utilise quotidiennement.
Ça veut dire que il y a plus d'enfants, je dirais rebelles par exemple, simplifier chez les béliers et les sagittaires.
Non, du tout. C'est-à-dire que si je dis par exemple l'état du moi, je rappelle rapidement les 7 états du moi. On a l'enfant spontané à la base qui commence, on a l'enfant adapté soumis, l'enfant adapté rebelle, le petit inventeur, ça en fait 4, c'est les enfants. On a ce qu'on appelle
l'adulte. Ça sont des caractères ou des successions?
Ce sont des parties du moi. Le moi est constitué structurellement par cette partie d'après l'analyse transactionnelle.
Okay. Hein.
En fait, ça irait plus loin, mais je pourrais vous dire qu'il y en a beaucoup plus. Mais on ne va pas entrer dans ces détails. Bon, il y a donc un enfant composé de 4 enfants. Il y a un adulte qui est un tout et qui a cette capacité d'analyser, de prendre du recul et de marcher vers l'autonomie, de grandir psychologiquement. Et on a 2 parents qui sont le parent nourricier et le parent critique. Ce qui est intéressant et que j'ai relevé, c'est que si on met en parallèle ces 7 états du moi, on peut les superposer aux 7 planètes, avec la même signification, avec les mêmes caractéristiques et avec les mêmes effets, qui sont à la fois au niveau de la parole, de l'expression, au niveau de la symbolique et au niveau du fonctionnement. Bon, les planètes ne donnent des résultats que parce qu'on les a en nous. Bien entendu. Donc on peut superposer à la fois les planètes et les êtres.
On les a en nous par notre naissance. C'est ça que vous voulez dire?
Pardon?
Par notre naissance.
Oui, bien sûr.
Du fait de notre lieu et de notre jour
du naissance. Du fait qu'on soit humain, tout simplement.
Hein? Mais l'influence des planètes est liée au lieu de naissance et à la date.
C'est très intéressant ce que vous dites. Il n'y a pas d'influence de planète. Il y a un rapport de structure. Et là, c'est quelque chose d'assez difficile à expliquer, surtout en si peu de temps.
Bon, alors on essaiera de l'expliquer la prochaine fois.
Je pense.
Parce que je pense que c'est intéressant, je veux dire pourquoi ça m'intéresse. Parce que de deux choses l'une, ou c'est purement et simplement un fantasme, une rêverie, et en parlant longuement, on va le faire apparaître, ou c'est réellement une méthode d'approche, une méthode de connaissance, une méthode intéressante, enfin utile, et à ce moment-là, c'est bon, ben, ça sera positif. Hein. Je sais que ce genre d'entretien choque beaucoup d'auditeurs, parce que en majorité, les auditeurs de Radio Courtoisie sont comme moi catholiques et enfin chrétiens, généralement catholiques, et que l'astrologie et le catholicisme, c'est deux choses qui voisinent assez mal. Mais c'est quand même intéressant de voir s'il y a des outils qui peuvent fonctionner, qui peuvent être créés.
Mais pourquoi ne créer, si vous voulez, comment dire, des difficultés? par rapport à l'astrologie, vous dites, par exemple, les catholiques sont parfois, certains sont réticents par rapport à l'astrologie. Mais je crois qu'en explicitant ce qu'est l'astrologie réellement, et non pas celle des journaux, je crois qu'on peut se réconcilier et on peut parler le même langage, pour la simple et bonne raison que ce type d'astrologie a des visées spirituelles, bien entendu.
Alors, voilà, donc je confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que pour les auditeurs qui veulent en savoir plus rapidement, qui s'intéressent à ces questions, ils peuvent aller assister à la présentation de votre séminaire. C'est le vendredi 12 septembre prochain.
Oui.
Je donne la parole à Patrick.
Je répète. Alors, le séminaire,
oui,
le séminaire d'astrophysiologie, l'Astrea, ce sera le vendredi 12 septembre à 18h, entrée 17,50 €, ou le dimanche 14 septembre de 9h30 à 19h, 15 euros. Ça se passe au Forum 104.
Non, 115.
Oui, 115 €. 115 euros, madame.
115 euros.
Oui, ça, je vous relève. J'avais mal relevé.
Émergence 01 41 13 68 36 ou portable 06 10 77 24 63. Il y a une adresse, Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75 015 Paris. Est-ce que je peux enchaîner, Serge, une minute, pour que nous soyons les premiers à mentionner un livre qui va probablement, mais ça n'est jamais certain, faire parler de lui, et qui s'appelle Fuyard. C'est un roman policier, signé, c'est le nouveau livre de Thierry Marignac. Il est publié chez Rivage Noir au prix de 7,95 €. Et si j'en parle, c'est que j'ai passé la nuit dessus. Je n'ai pas pu dormir avant d'être arrivé au bout de ces quelques 260 pages. C'est remarquable parce qu'il s'agit d'un roman policier qui se passe en Russie. Et il y a toutes sortes de romans policiers ou d'espionnage qui se passent en Russie, qui sont écrits par des gens qui ont passé une semaine ou deux dans un palace, alors que Thierry Marignac a, lui, vécu en immersion dans la population la plus profonde de la Russie, non pas dans le centre et les palaces de Moscou, de Saint-Pétersbourg, mais dans les banlieues de Moscou, à 300 km de Moscou, etc., qu'il a acquis une grande maîtrise de la langue, des liens très particuliers avec la population, si bien qu'il peut se permettre de signer un roman policier tout à fait crédible, à partir d'une des nombreuses affaires mafieuses et de violences qui se déroulent dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie. Et alors le thème, et je pense que quand Serge l'aura lu ou même parcouru, il aura envie d'inviter Thierry Marignac, sans lui forcer la main, c'est la recherche de l'âme slave. C'est-à-dire qu'un journaliste français lance le défi à un journaliste américain avec qui il va partir enquêter sur un crime de sang. Il lui fait le pari, une caisse de champagne français, de découvrir l'âme slave, les lecteurs verront s'ils le trouvent. Alors, ils engagent au passage un journaliste russe. Alors, ça a l'air d'une histoire drôle comme ça. Un journaliste russe, un américain et un français sont dans un bateau, un drôle de bateau. Donc, je recommande, et j'espère que nous pourrons en reparler, ce tout nouveau livre. Je crois que nous sommes les premiers à en parler parce que c'est un service de presse que j'ai reçu hier. Ce nouveau livre de Thierry Marignac, Fuyard, chez Rivage Noir, aux 260 pages, à 7,95 €.
Merci. Dernière question, dernières annonces.
Je rappelle que le chèque pour Riomont est intitulé Association Notre-Dame de Riomont. Le numéro de téléphone de l'agence de pub qui propose un emploi est le 06 64 09 99 88 pour des jeunes gens à former. Anne Brassier vous invite à lire sous les pommiers le dimanche 21 septembre à Saint-Étienne-Latillet. Vous rencontrerez des auteurs normands, etc., etc. Association des Amis de la Varande. Rendez-vous au pressoir à Saint-Étienne-Latillet sur la départementale 58, près de Pont-l'Évêque et Beaumont-en-Auge. Parcours fléché sur la départementale 58. De 11h à 17h, entrée gratuite, pique-nique tiré du sac. Et puis, c'est tout.
C'est tout. Alain Couvrat, merci. Vous reviendrez nous voir donc dans quelques semaines pour développer ce sujet qui me paraît fort intéressant. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu nous garde.
Merci à vous.
Ici Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 septembre de 18 à 21h, en différé jeudi 11, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par...